Grâce au programme Rebondir après mon burn-out de Pourquoi pas moi, bénéficie d'une méthodologie structurée et éprouvée pour retrouver ton énergie et transformer ton burn-out en une opportunité, le tout en moins de 2 mois. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les notes de l'épisode.
Vous pouvez avoir un job ou une fonction qui fait rêver, un titre génial, mais en fait, vous avez la rate au courbouillon tous les jours et c'est infernal. Cette boule au ventre, je l'ai lâchée très volontiers, je ne l'ai jamais reprise. Presque, ce burn-out m'a sauvé la vie, en fait, puisque j'en avais besoin, ce bon coup de pied aux fesses, de dire « Laure, arrête de te faire du mal, dégage de là ».
Bienvenue sur Pourquoi pas moi. Je suis Charlotte Desrosiers, la fondatrice de Pourquoi pas moi. Pourquoi pas moi, c'est un podcast avec des témoignages sans coupe, des véritables coulisses de ceux qui ont osé écouter leur petite voix et qui ne le regrettent pas. C'est un bilan de compétences, nouvelle génération, trouver ma mission de vie et écouter ma petite voix, finançable à 100% avec votre CPF. C'est un livre, et si je changeais de métier, redonner du sens à son travail. C'est le TEDx, je n'ai plus peur du dimanche soir. Et c'est une newsletter hebdomadaire. Pourquoi pas moi ? L'invitation à écouter ta petite voix. Je suis très heureuse d'accueillir aujourd'hui derrière mon micro le docteur Laure Hiverna. Laure a un parcours particulier car elle a fait pharma, s'est spécialisée dans le marketing et après plusieurs années dans une belle carrière dans les laboratoires pharmaceutiques, son corps lui a hurlé dessus et confirmé qu'elle n'était pas à sa place. Suite à un burn-out et sa crise de sens, elle s'est formée en tant que naturopathe car elle croit au fait que la médecine doit passer avant tout par la prévention. Aujourd'hui, Laure est naturopathe. Elle a écrit un livre et créé une méthode pour nous permettre de chouchouter notre ventre et donc notre santé. Je ne vous en dis pas plus. Je vous souhaite la bienvenue dans l'univers du docteur Laure Hiverna. Bonjour Laure.
Bonjour Charlotte.
Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te présenter, s'il te plaît?
Ah, ok. Alors, on rentre dans le vif du sujet. Donc, c'est mon livre, mon cahier Ventre heureux, qui a été publié chez Solar, donc il y a à peu près 2 ans. Donc, en fait, j'aime à le décrire comme une petite bible du ventre qui vous aide, en fait, à identifier ce qui est normal et ce qui ne l'est pas au niveau de votre ventre, à savoir que, en fait, qu'il s'agisse de problèmes de manque d'énergie, de résistance à la perte de poids, d'hormones, de digestion, d'émotions, tout est centralisé vraiment au niveau du ventre. Donc, c'est vraiment une invitation à vous expliquer, en fait, et vous reconnecter surtout à ce petit ventre et essayer de plus l'écouter parce qu'il a beaucoup de choses à nous dire. On le décrit comme notre second cerveau. Moi, je pense plutôt que c'est le premier, le plus primitif, et c'est là où siège notre belle intuition, ce sixième sens. Et si je l'ai choisi, c'est aussi parce qu'il résume en fait ces dernières années, alors pas mal d'années pour être honnête, peut-être même une bonne partie de ma vie, et surtout ces 10 dernières années, puisque vraiment c'est mon ventre qui m'a finalement sauvée, dans le sens où il m'a envoyé des signaux assez forts en fait. Il avait été pendant une longue période, je le considérais comme mon pire ennemi parce qu'il me pourrissait la vie en fait, et finalement c'est lui qui avait raison beaucoup plus que ma petite tête, qu'il fallait que j'apprenne à écouter. Et du coup, donc, j'ai mis en place beaucoup de protocoles, tout un chemin de guérison finalement. Donc, comme tu le sais, je suis docteur en pharmacie et j'ai pris un virage à 180 degrés et je suis partie dans la naturopathie. Et vraiment, donc, ce livre va condenser beaucoup de conseils de médecine naturelle en fait, de nutrition, voilà. Et c'est un mélange body and mind, parce qu'en fait, on peut pas dissocier le corps du mental, et le ventre l'a très bien compris, puisque en plus de faire tout son travail de digestion, au niveau de l'immunité, plein de choses. Bref, je pourrais en parler pendant des heures, mais il est surtout le siège de beaucoup d'émotions. Avec le système nerveux entérique aussi, il est très connecté, également avec le nerf vague à notre cerveau. Donc, voilà. C'est un grand mystère, notre ventre.
C'est une belle introduction. Tu nous as donné plein d'infos pour faire des petits teasings pour la suite, oui. La suite de l'interview. Avant de raconter où est-ce que tu en es aujourd'hui et justement cette expertise que tu as développée, est-ce que tu pourrais nous raconter où est-ce que tu as grandi?
Alors, j'ai grandi, oui. Ben, écoute, là où je suis actuellement, d'ailleurs, c'est en pleine nature, en fait, à la campagne, alors proche d'une ville un peu plus grande qui est Lyon, en fait, que tu dois certainement connaître, mais dans un petit village en pleine nature. Et surtout, j'ai eu cette éducation très famille, assez cocon finalement, au contact de la nature, avec des balades en forêt le dimanche, on allait cueillir les champignons, enfin ce genre de une maman qui cuisinait beaucoup aussi. En tout cas, les premières années de mon enfance, puisqu'après le travail a fait que l'alimentation familiale a un petit peu été modifiée. Mais malgré tout, on va dire avec cette, cet ADN nature en fait, qui était très fort en moi. Et même si j'ai une grande envie d'émancipation, puisque depuis j'ai pas mal voyagé, j'ai beaucoup bougé, j'ai fait mes valises plus d'une fois, j'étais très attirée notamment par les grandes villes, le côté plus citadin. Alors c'est vrai que je suis une fille de la campagne à l'origine, mais on avait vraiment ce côté bougeotte dans la famille, on voyageait beaucoup. Et voilà, j'ai eu un moment de ma jeunesse où j'ai eu envie de partir et de m'éloigner à tout prix de ce côté campagne où rien ne bougeait, pour construire ma carrière. Et voilà, on en parlera plus en détail, mais ce retour aux sources fait du bien, vraiment du bien, et j'ai envie de mettre plus de nature encore dans mon quotidien.
Ouais, c'est marrant comme quoi, parfois on rejette ce qui nous fait le plus de bien.
Exactement, petit côté masochiste.
Et quand tu étais une petite fille, c'était quoi tes rêves?
Alors j'avais beaucoup de rêves, j'étais une grande rêveuse et je suis toujours, et c'est marrant parce que cette petite fille, je dirais que je l'ai jamais quittée, elle est toujours, de toute façon notre enfant intérieur est toujours bien présent, mais parfois on ne l'écoute pas trop. J'étais une petite fille donc très rêveuse, et je pense que j'étais beaucoup dans mon imaginaire, donc très créative. Je me surprenais à dire que je voulais créer quelque chose, inventer. Donc je sais pas si j'avais une passion pour vouloir inventer quelque chose, mais je sais pas, j'avais ce côté créatif, j'avais envie de voilà, de faire des choses différentes, et j'étais très observatrice aussi. Donc j'observais beaucoup le monde autour de moi. Ce qui me rendait finalement assez empathique, et je pense que la créativité, c'est les rêves viennent de cette envie de créer en fait quelque chose, et surtout de d'avoir cette curiosité du monde qui nous entoure.
Bon, j'ai pensé quoi, je mets pause. Et donc du coup tu disais bon que la partie créativité c'était toute ton enfance, mais tu disais quand je serai grande donc j'aimerais créer quelque chose. Mais
alors oui, voilà, j'avais vraiment ce côté créatif, et très rapidement, en fait, ne me demande pas pourquoi, j'avais environ 7 ans, j'ai eu une révélation, je voulais devenir pharmacien. Bon, c'est vraiment un rêve d'enfant qui est complètement atypique, parce que très peu d'enfants veulent devenir pharmacien. Et ça s'est passé en fait dans une pharmacie. Donc quand j'étais petite, j'étais très souvent malade en fait, souvent bon, voilà, des angines à répétition, ce genre de choses. Et je demande à maman, je lui dis « Mais qu'est-ce qu'il faut faire comme étude pour travailler dans une pharmacie ?» Et là, elle m'a dit « Il faut faire faut être très très bonne à l'école, faut avoir de super bonnes notes. » Et je pense que j'avais ce syndrome de la bonne élève. Donc, c'est devenu une sorte d'eldorado pour moi de devenir pharmacien. C'est resté en moi, je ne sais pas pourquoi. Et probablement parce qu'il y avait toutes ces petites fioles, ces formules, enfin ces médicaments, ces remèdes. Je pense que j'avais ce côté guérison en moi, ce besoin de comprendre en fait le fonctionnement du corps. Et en grandissant, évidemment, le rêve, en fait, l'envie de travailler, en tout cas dans la santé, puisque comme tu as pu le comprendre, je ne suis plus pharmacien, je suis d'ailleurs docteur en pharmacie, donc j'ai le diplôme et je ne pratique plus du tout en tant que pharmacien, parce que justement, en fait, moi, mon rêve, c'était vraiment de trouver des remèdes, des solutions en fait à des problèmes. Et voilà, mais je pense que le passage par la pharmacie avait été quand même assez important en fait.
Et tes parents, ils faisaient quoi comme métier?
Alors eux, ils travaillent dans l'agroalimentaire. Donc je pense que inconsciemment, le côté nutrition s'est invité dans l'assiette. Donc eux, c'était vraiment le côté donc plus agroalimentaire. Et donc ils avaient une entreprise, mon papa avait une entreprise. Et le côté entrepreneur aussi, je pense qu'il était très fort dans la famille, puisque j'ai toujours vu donc mes parents travailler ensemble. Enfin, au départ, mon père était directeur technique dans une entreprise plus grosse, et ensuite il s'est mis à son compte, et ma mère s'est invitée dans l'équation pour le côté business en fait, commercial. Et je pense que ça a été une grosse source d'inspiration. Parfois les parents sont des modèles contre modèles, j'ai pu m'inspirer un petit peu de ce schéma familial. Après, c'est pas simple tous les jours, évidemment, une famille d'entrepreneurs. Comme tu peux l'imaginer, à table, on parle que de ça.
Et c'est les mêmes à la maison.
Ouais.
Donc, les parents sont le virus. Ouais. Ouais, ils ont papa a monté sa structure, et pareil, ma mère l'a rejoint après. Donc, je connais la table de salle à manger, le bureau de papa.
Exactement.
Et c'est la même chose aujourd'hui. Bon, enfin, sauf que là, je suis séparée. Mais bon, c'est pareil.
Non, c'est ça. Et puis, t'es dans les coulisses, en fait, de cette vie d'entrepreneur et les hauts et les bas, c'est pas simple. Et c'est vrai qu'ils étaient dans cette structure, on va dire, PME. Donc, ils étaient ni trop petits, ni très gros. Et du coup, avec la réalité qu'on a pu voir au niveau de l'agroalimentaire, notamment au niveau, donc la grande distribution, toute cette évolution, et c'est vrai que ça a été des constats très forts que j'ai pu faire en parallèle aussi moi de mes, on va dire mon parcours dans l'industrie pharmaceutique, et ça a été, je pense inconsciemment, plein de petites graines qui ont été plantées depuis l'enfance, tout au cours de ma vie, et qui ont fait germer aujourd'hui ce beau projet, je pense.
Trop chouette. Et donc là, du coup, tu te dis, moi, ce que j'ai envie de faire plus tard, c'est devenir pharmacienne. Donc ça se passe comment faire le choix de tes études?
Oui, ça a conditionné. Alors, c'est vrai que après, les choses ont un petit peu changé. J'ai eu envie surtout, bon, pharmacie, dans une pharmacie, c'est un métier qui ne m'a finalement jamais vraiment attirée. Je pense que ça, c'était une sorte de mythe d'enfant quand je voyais ces petites fioles, ces remèdes, etc. Et le fait que ma mère me dise, Laure, il faut avoir des bonnes notes. Donc, ce côté un peu challenge, je me dis, chouette, je vais être pharmacien. Mais très rapidement, je me suis dit, être au comptoir d'une pharmacie, c'est pas du tout pour moi, en fait. Je me reconnaissais pas du tout dans ce côté... un peu poussiéreux en fait qu'on a de la pharmacie, qui est un très beau métier, quoique aujourd'hui on est en train de perdre clairement le vrai rôle du pharmacien, je trouve, au comptoir, c'est-à-dire de moins en moins de conseils et beaucoup plus de ventes. Donc voilà, très rapidement je me suis dit, mais en fait non, je ne veux pas du tout faire pharma. Et quand j'ai découvert en fait par le biais de rencontres qu'on pouvait faire plein de métiers dans la pharmacie, contrairement à médecine où finalement on est souvent voué à être dans un cabinet ou à l'hôpital, la pharmacie ça ouvre beaucoup de champs des possibles. Et donc, en fait, moi, je suis partie dans l'industrie, la filière industrielle, dans le marketing et market access. Donc, juste pour faire court, le market access, c'est quelque chose un peu technique de tout ce qui est mis sur le marché. Donc, économie.
Donc, d'abord, je me permets de te couper. D'abord, t'es diplômée de docteur en pharmacie.
Ouais.
Et c'est pendant que tu fais…
Pendant ce cursus.
Pendant
tu fais un choix, en fait. Donc, soit tu pars en officine, à l'hôpital, biologiste, tu peux être dans un labo d'analyse médicale. Et moi, j'ai pris la filière industrie et j'ai fait un master de marketing management à l'ESSEC. Et tu te spécialises, en fait. Et ensuite, les stages vont faire en sorte que tu prends une voie. Et en fait, ce qui m'a vraiment fait partir après dans les premiers pas dans l'industrie pharmaceutique, dans ce côté plus market access dont je te parle, c'était cette envie de partir à l'étranger. Et il y avait un stage qui s'est proposé à moi, qui était ce type de stage. Au départ, c'est pas trop ce que je voulais, mais je voulais tellement aller à l'étranger. Je revenais d'une expérience en Chine et j'avais adoré. J'avais travaillé dans un labo anglais en fait, notamment en Chine, et du coup ça a été, je pense, toute une petite histoire, un beau storytelling en entretien qui a fait qu'ils m'ont validé en fait ma candidature, et donc je suis partie à Londres au départ pour un stage de 6 mois et j'y suis restée beaucoup plus longtemps en fait.
Et quand t'as postulé à l'ESSEC, j'imagine que c'est, il y a pas beaucoup de personnes qui sont pharmaciennes qui arrivent sur les bancs de l'ESSEC.
Écoute, si de plus en plus, en fait, je dirais le tiers de notre promo était pharmacien. Okay. L'autre tiers était plus profil ingénieur. Et ensuite, les autres, c'était des backgrounds plus marketing qui avaient envie de se rajouter un nom sur le CV parce que l'ESSEC, ça sonne bien. Mais c'était quand même très, très hétérogène, en fait. On avait beaucoup de profils scientifiques parce que c'est un plus, en fait, qu'on rajoute. Et très souvent, tu as des professions très scientifiques qui ont besoin de cette notion plus business, en fait. Et voilà. Donc non, on était nombreux et beaucoup de ma fac de Lyon parce qu'on avait justement beaucoup de stages à l'étranger. Et je pense que c'est ce genre de profil qui plaisait, en fait, d'avoir bougé à l'international aussi.
C'est sûr. Donc là, tu sors diplômée en 2010.
Voilà.
Tu arrives à Londres pour un stage de 6 mois. Qu'est-ce qui se passe après?
Alors, il se passe beaucoup de choses, gros coup de cœur. Alors déjà, je connaissais Londres puisque j'avais déjà fait des premiers pas un petit peu toute seule en tant qu'Erasmus. J'avais envie de découvrir. C'est vrai que Londres, ça a été une terre d'adoption, en fait. Ça a vraiment été un énorme coup de cœur. Je pense que c'est peut-être un besoin d'exil aussi, je sais pas, puisque comme on dit souvent, quand on part sur une île, c'est qu'on a besoin de mettre une distance, probablement avec la famille, etc. Je pense que c'est surtout quelque chose que j'avais à me prouver à moi-même, que je pouvais me construire seule. Et j'avais vraiment ce gros challenge en moi, ce côté très un petit peu carriériste, j'avoue. J'avais un modèle de moi. Je voulais devenir cette femme ultra carriériste, très successful, etc. Sans être, voilà, j'avais pas du tout ce tempérament et je l'ai jamais eu sans être à écraser tout le monde, loin de là. Mais j'avoue que j'avais des ambitions de carrière qui étaient très idéalisées. Et puis, je me suis un petit peu brûlé les ailes au fil des années. Mais malgré tout, c'est vrai que Londres, ça a été une très, très belle expérience. J'ai adoré. Et je pense que ces premiers pas dans l'industrie pharmaceutique ont été très révélateurs de ce que je fais aujourd'hui, puisque ça m'a mis en face des yeux un gros problème dans nos systèmes de santé. C'est-à-dire que j'avais la chance, toute junior que j'étais, d'être confrontée à des stratégies de mise sur le marché, donc le lobby pharmaceutique. Et c'est là où j'ai compris que ce qu'on comprend probablement pas derrière un comptoir de pharmacie ou dans son cabinet, c'est qu'en fait, tout est très bien orchestré au niveau des gouvernements et que l'industrie pharma a un énorme poids contre les gouvernements. Et ça dissonnait de plus en plus. Moi, je me suis dit, mais en fait, c'est pas possible. Moi, je suis professionnelle de santé avant tout. Et on fait du business, certes, mais il y a parfois pas trop d'éthique. Ça manquait beaucoup d'éthique dans des stratégies. Voilà, donc
ça a pris tes valeurs.
Comment ?
Du coup, ça touchait tes valeurs.
Ouais, clairement. C'était en plus, alors ça a été beaucoup de constats, c'est-à-dire qu'il y a eu déjà d'un point de vue professionnel un constat très fort où je me suis dit déjà, et même moi personnellement, ce type de médecine, en fait, je ne la consommais pas. C'est-à-dire que j'ai toujours été éduquée à être plus sur de la prévention et surtout à me soigner de manière naturelle. Dès mes études de pharmacie, j'avais été passionnée. J'ai une sorte de passion pour la botanique. C'est vrai qu'en études de pharma, on étudie beaucoup de choses assez intéressantes, mais j'avais adoré la botanique et c'était ma matière chouchou. Et je pense que j'étais complètement mordue. Le prof qu'on avait était passionnant. Et en fait, les médicaments n'étaient pas forcément présents dans mon quotidien. Et surtout, je me suis assez vite rendu compte qu'il y avait beaucoup de toxicité. Ce qui nous frappe dans nos études de pharma, c'est qu'il y a énormément de toxicité associée à des médicaments. Donc, tout est question évidemment de dosage. Mais quand on est sur des pathologies chroniques, celles pour lesquelles je travaillais qui tuent le plus de personnes aujourd'hui, donc du diabète, maladies cardiovasculaires, des cancers, je me suis rendu compte qu'en fait, on n'aidait pas les patients puisqu'on agissait de manière trop tardive et très agressive avec beaucoup d'effets secondaires, alors même que ces maladies auraient pu être soignées par une meilleure hygiène de vie, une meilleure alimentation.
Ouais, anticipée, quoi.
Exactement. Et ça, évidemment, l'industrie pharma ne mettait pas ça en avant, ne faisait pas la promotion parce que, bon, je défonce des portes ouvertes, mais finalement, la prévention, c'est le principal concurrent de l'industrie pharma. Et voilà. Et je pense que j'ai de plus en plus eu ces constats très forts en moi, ce côté peut-être très justiciaire aussi, et l'envie de mettre la vérité au bon endroit et surtout de défendre les valeurs d'une médecine plus juste et humaine. Donc ça a été déjà un premier moteur en fait de changement. Et en parallèle aussi au niveau personnel, bon, déjà sans compter sur le fait que l'industrie pharma, là où je travaillais, c'était un très gros laboratoire et je pense que mon côté créatif, un peu atypique, n'était pas du tout dans son élément. C'est-à-dire que je pense que je perdais mon temps, je perdais même mon potentiel en fait dans ce genre d'industrie et on était un peu des pions. Moi, franchement, ça me foutait le cafard d'aller tous les matins dans cette espèce de grande tour de verre avec tout le monde habillé en costume gris. Vraiment, ça me touchait au moral, quoi. J'avais envie de voir quelque chose de plus gai, plus beau, plus créant, en fait. Et c'était pas toujours très créatif. Des esprits parfois un peu étriqués aussi. Donc, ça m'angoissait. Et en fait, mon ventre qui est arrivé dans ce processus qui s'est...
J'allais te demander comment ton corps t'a parlé à cette époque-là.
Exactement. En fait, c'était devenu assez infernal. En fait, pendant les réunions, ça se passait étrangement avec des gens que je sentais moins. Mais en fait, le ventre qui commençait à s'entortiller, faire énormément de bruit, c'était...
C'était bien gênant.
Hyper gênant. Non, c'est ça. En fait, c'était un peu une réaction de fuite, en fait, de partir. Le ventre qui me disait clairement, enfin, moi, ça s'est déclenché en mode plutôt diarrhéique. En fait, le syndrome de l'intestin irritable a plusieurs profils. Donc, juste pour faire une petite parenthèse, c'est un peu le syndrome, c'est pas une maladie, c'est un ensemble de symptômes. Et c'est là, c'est la poubelle, en fait, de tous les problèmes digestifs. On va mettre ce qui n'est pas maladie cœliaque, maladie de Crohn. Bam, syndrome d'intestin irritable. Mais là, en fait, tu fais face à un désert thérapeutique. Il y a zéro solution dans la médecine conventionnelle. Et tu te retrouves avec ton ventre qui te gère toute ta vie, en fait. et souvent qui te la pourrit, et c'est très très compliqué. Donc j'avais deux choix, soit j'écoutais ces gastro-entérologues qui me disaient « mais c'est bon, vous n'avez pas de cancer, c'est dans la tête, merci bien, vous m'avez vachement aidé, vous avez appuyé encore plus sur le problème », ou alors ils me donnaient des anti-inflammatoires à haute dose, des antidépresseurs, des anti-tout, mais on soignait pas du tout le problème, chose que j'ai évidemment refusée. Je disais « mais attendez, je suis pas en dépression en fait, donc non, je vais pas prendre d'antidépresseurs ». Et ensuite, j'ai pas eu le choix que de faire mes propres recherches, et c'est là où je me suis assez vite rendu compte que toute mon hygiène de vie n'allait pas. Tout mon environnement, en fait, était à changer, et à commencer par ce boulot, c'est la première source qui ne convenait pas. Après, c'est vrai que entre temps, ça c'est vraiment, ça, il y a eu un facteur déclencheur, puisqu'en fait, ce petit ventre qui m'envoyait plein de signaux que j'essayais de camoufler comme je pouvais, vraiment, c'était très compliqué. Je finissais par ne pas vraiment l'écouter jusqu'au jour où, le jour ultime, en fait, donc j'ai eu une situation très difficile au travail. Donc, en fait, j'étais partie de ce gros laboratoire. Je suis partie dans le conseil, mais je travaillais toujours pour ce même labo. Et là, ça a été une révélation pour moi dans deux sens. D'un point de vue professionnel où, en fait, je travaillais sur des, ce qu'on appelle des patient support programs. Donc, ce sont des programmes d'éducation aux patients. Et en fait, on mettait vraiment en avant le fait qu'un patient éduqué est un patient acteur de sa santé. Et c'est, ça a été la révélation. J'ai adoré, en fait, ce côté éducation, vulgarisation, explication, être dans la peau du patient. Et en fait, j'ai compris qu'elle était là, ma voix, en fait. C'est travailler au contact des patients et pas du tout dans ce côté business, politique, etc. Mais en même temps, ça a été la pire expérience de ma vie parce que j'ai une très mauvaise expérience avec mon supérieur, une situation de harcèlement au travail qui a conduit à un burn-out. Et ce burn-out, finalement, qui a été le signe ultime de mon corps de dire stop, tu n'es pas faite pour cet environnement, casse-toi de là. Mais vraiment, ça a été des mots très forts dans le sens où donc j'ai développé un zona. Mon médecin de famille, qui me connaît depuis toute petite, m'a dit « mais Laure, on ne fait pas un zona à ton âge, en fait. C'est, qu'est-ce qui se passe ?» Et là, j'ai fondu en larmes. Et c'est, en fait, ça a été ce trop-plein qui a été, qui a duré quand même assez longtemps. Du passé, bon, t'imagines bien que ça fait résonance avec beaucoup de choses de l'enfance aussi, plein de trucs qui sont produits tout au cours d'une vie, hein. Finalement, on est un résumé de toutes nos expériences et on les garde en nous. Et c'est là où j'ai commencé ce chemin de guérison qui a été évidemment long. C'est la pilule miracle n'existe pas.
Donc là, c'était en quelle année, ce le burn-out?
En 2014. Attends, oui, 2015. Et en fait, j'ai quitté donc ce milieu pour... en fait, j'ai déjà fait un énorme break de me dire « mais qu'est-ce que je fais ?» C'est-à-dire qui je suis, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je fais. Moi qui ai nourri des rêves de carrière, j'avais bille en tête dès mes 7 ans de ce que je voulais faire. Bah là, mes rêves s'effondrent. Mais en fait, je vais faire quoi de même ?
Et là, du coup, à ce moment-là, t'es dans quelle situation professionnelle quand tu fais ton burn-out ? T'es consultante ?
J'étais salariée, en fait, mais dans le consulting.
Ok, ouais. D'accord.
Mais en Angleterre. Donc, oui. En Angleterre, pour résumer, quand tu perds ton emploi, c'est pas la France. T'as pas d'aide du tout. Donc, en fait, c'est ce côté financier qui, moi, a été mon moteur, même très néfaste, à résister face à cette situation en me disant, mais en fait, je n'ai pas le choix. Il faut que je garde mon job, en fait. Je veux rester à Londres. Je veux vivre à Londres. Du coup, je n'ai pas le choix. Sauf que, en France, tu as beaucoup d'avantages de négocier des ruptures conventionnelles. C'est vrai que la protection sociale française n'est pas du tout de mise en Angleterre. C'est très différent.
Je fais une petite parenthèse parce que je pense que ça va parler à pas mal de personnes qui nous écouteront. Ce qui est fou, c'est que finalement, tu vois, enfin moi, je suis passée aussi par la case burn-out. Et qu'en fait, ce truc, même si tu as quand même un filet de sécurité qui est énorme parce que quand tu fais un burn-out, tu peux très bien, en effet... Tu peux plus facilement négocier une rupture conventionnelle. Et si l'employeur ne veut pas, tu peux même faire une rupture qui dit que t'es en inapte à faire ce travail. Après, ça a d'autres implications et c'est un énorme dossier. Mais en tout cas, c'est possible. Mais en fait, quand t'es en burn-out, tout est un problème et tout est compliqué et tout fait peur. Et ce qui est fou, c'est que même quand on sait qu'on a cet énorme filet de sécurité en France, on a encore cette peur. Et clairement, bon, dans ton cas, c'était forcément exacerbé parce que tu n'avais pas ce filet, quoi.
Pas ce filet, pas ma famille à côté, mes proches qui étaient très démunis aussi. C'est-à-dire que moi, je rencontrais une situation qui, même d'un point de vue juridique, a dû être solutionnée. Donc, prendre un avocat, ça a été...
Pourquoi j'avais dû prendre un avocat?
parce qu'il y avait une situation de harcèlement au travail et il y avait eu des plaintes de ma part, en fait, que j'ai reportées puisque c'était des choses que moi, je souhaitais dénoncer. J'étais étrangement la seule qui restait, qui tenait, parce que je ne voulais pas lâcher face à ce personnage qui faisait partir toutes les minettes de l'équipe. Étrangement, elles partaient toutes. Et du coup, ça s'est solutionné par, bon, malheureusement, quelque chose d'assez basique. Hein. C'est, je pense que j'aurais pu obtenir bien plus. Mais à coup de quoi, de procès, etc. Franchement, j'avais pas du tout envie de partir dans un combat juridique. Donc en fait, très rapidement, ça a été plus symbolique, mais du coup, d'acter cette fin de contrat. Voilà, mais j'étais dans une fin de contrat par évidemment non voulu, puisque moi, en plus, j'adorais mon job. C'était, enfin, j'adorais. À la fin, c'était devenu infernal, évidemment, mais j'adorais ce type de travail, mais pas dans cet environnement. Et voilà, donc du coup...
Ça, c'est un vrai sujet, tu vois, dont je parle, dont j'ai parlé dans mon livre qui s'appelle « Si je changeais de métier », dont je parle à mes clients dans le bilan de compétences nouvelle génération. C'est de dire qu'en fait, ton métier, finalement, tu peux l'aimer, mais ouais, finalement, si t'es dans un environnement qui ne respecte pas tes valeurs, ton corps, il va te hurler dessus. Donc, c'est justement c'est apprendre ça. À savoir qu'est-ce qui t'anime.
Qu'est-ce qui fait pour toi.
Exactement, qu'est-ce qui est fait pour toi, pour justement, et quel est l'environnement qui te correspond pour pouvoir aller déployer ton potentiel dedans, quoi.
Bah, c'est exactement ce que tu dis. Tu sais, en dehors d'avoir ce côté passionné, alors parfois des personnes n'arrivent pas à trouver leur passion, ce qui les fait vibrer, mais d'avoir un bon environnement, des collègues sympas, le plaisir de se lever pour aller au travail, même si vous faites un travail un peu basique, pas très excitant, bah, finalement, vous êtes très, très heureux au travail. Et inversement, vous pouvez avoir un job ou une fonction qui fait rêver, un titre génial, mais en fait, vous avez la rate au courbouillon tous les jours et c'est infernal.
Elle a le plus du dimanche soir.
Exactement. Cette boule au ventre, je l'ai lâchée très volontiers. Je ne l'ai jamais reprise. Alors, ça arrive parfois d'avoir, évidemment, en tant qu'entrepreneur, on a tout un autre panel d'émotions qui arrivent. Ça, c'est sûr, c'est loin d'être rose. Mais la boule au ventre de ne pas avoir envie d'y aller, en fait, ça, je ne l'ai plus retrouvée. Et c'est ça a été vraiment, je pense, pour moi, il n'y a pas eu d'hésitation, en fait. C'est-à-dire que presque ce burn-out m'a sauvé la vie, en fait, puisque j'en avais besoin, ce bon coup de pied aux fesses, de dire « Laure, arrête de te faire du mal, dégage de là ». Et ça a été, ouais, c'est encore aujourd'hui.
Un beau cadeau, ce qu'on appelle un beau cadeau mal emballé.
Ouais, c'est mal emballé, c'est sûr, mais bon, un cadeau quand même.
Et donc là, du coup, tu fais ton burn-out, bon, tu arrives à te libérer de cette entreprise. Ouais. T'arrives à avoir de quoi vivre le temps de rebondir.
Des parents surtout très présents. J'ai eu la chance d'avoir des parents vraiment présents. Mon petit ami aussi de l'époque qui était vraiment top en fait là-dessus. C'est sûr que sans eux, je pense que ça aurait été une toute autre histoire. Mais surtout un beau système D, c'est-à-dire qu'on passe d'un niveau de vie qui est plutôt confortable, surtout une vie à Londres. Après, c'est vrai que Londres c'est très cher, mais malgré tout, c'est un peu la descente. On repart un peu à zéro quoi. C'est très compliqué.
Avec quel âge?
J'avais quel âge? Alors attends, je fais le calcul. Finalement, je suis très mauvaise en maths. Je devais avoir une trentaine d'années. J'avais 30 ans. Bah en fait, oui, c'est ça, 30 ans. 30 ans, c'est ces décennies qui, tu sais, en fait, résonnent en toi. Et là, j'approche de la prochaine décennie. J'ai toujours 30 ans dans ma tête, mais j'approche de l'autre décennie. Et c'est là où il y a beaucoup de reset, en fait, qui se passe. On parlera de ce terme reset, d'ailleurs. Mais c'est vraiment, ça a été... Oui, je pense 10 années très très charnières là que j'ai vécu. Ces 10 dernières années, ça a été un énorme bilan, une introspection, une découverte de moi qui a été vraiment nécessaire et passionnante en fait. Voilà, si je refais un peu le bilan aujourd'hui, si je me regarde du haut de voilà moi à 30 ans, j'aurais envie de lui dire mais fais tout pareil parce que c'est parfait et tu vas en chier, c'est pas simple, mais il faut le faire et c'est. Et j'encourage beaucoup de personnes, si certaines m'écoutent et qui sont dans cette situation de boule au ventre pour le matin pour aller au travail sans nécessairement vivre quelque chose d'horrible au travail. Mais le simple fait de pas vous sentir aligné et heureux, vraiment saisissez, n'attendez pas comme moi que votre corps vous lâche en fait parce que c'est beaucoup plus dur en fait après de se reconstruire. Écoutez-vous, vraiment c'est super important parce que au fond de nous, dans voilà notre petit ventre, cette petite voix intérieure, cet enfant intérieur, c'est franchement, beaucoup mieux les choses que nous, que notre petite tête.
Tu es à 1000% d'accord.
Je sais, oui. On a un sujet similaire.
Donc là, tu fais ton burn-out, comme tu disais tout à l'heure, tu es complètement perdu, tu sais plus qui tu es, comme malheureusement toutes les personnes qui toutes le font du burn-out. Comment, qu'est-ce que tu fais?
Ah, qu'est-ce que je fais? Bah, ça a été des moments assez sympas. Alors non, au tout début, chasse le naturel, il revient en galop, je postule pour des nouveaux jobs exactement dans la même industrie. Et là, je me prends porte sur porte, je fais notamment un entretien, mais qui a été très drôle, dans une boîte. J'avais pas envie d'y aller, mais il me fallait un job. Et ils me disent, écoutez, c'est marrant, où est-ce que vous voyez dans 5 ans? La question cliché de l'entretien. Et là, je me dis, bah, tout sauf là, à mon compte. Et là, ils me disent, mais Laure, mais pourquoi tu postules chez nous si tu sais déjà où tu te vois dans 5 ans et que ça n'est pas là, en fait? Et ils m'ont dit que très clairement, t'as le profil qu'on cherche, mais on va pas t'embaucher parce qu'on voit bien que t'es pas à ta place. Et je remercie ces recruteurs, en fait, de m'avoir dit ça parce que je le savais. Dans tous les cas, je doute que j'aurais pris ce job, mais le fait de posez-vous cette question. Où est-ce que vous voyez dans 5 ans? Et si la réponse, elle est tout sauf là où vous êtes aujourd'hui, mais entreprenez des changements parce que ce soit sur le plan pro, sur le plan familial, personnel, à tous les niveaux, en fait, et commencez parce que ça va prendre du temps, évidemment, mais à déjà être conscient de ça, être honnête. Et donc voilà, ça a pris, on va dire, 3 mois où je commençais à postuler sans grande conviction. Et là, rapidement, je me suis dit, Laure, laisse tomber, si tu ne veux pas repartir dans cette industrie. Et en fait, en parallèle de ça, j'avais mon ventre qui était quand même très chamboulé. Je commençais à mettre en place beaucoup de protocoles de changement dans ma vie. Tout bête, j'ai arrêté de fumer, j'ai commencé à manger, à cuisiner, à manger mieux, et là je me suis rendu compte de l'impact que ça avait sur ma santé. Pour gagner un petit peu d'argent, je donnais des cours de français à des enfants. Et en fait, ça a encore une fois été une révélation. Je voyais aussi très souvent une amie qui, elle était à son compte, et je me suis dit, mais sa vie a l'air géniale parce qu'elle a l'emploi du temps qu'elle veut. Elle peut aller à la piscine entre midi et deux. Elle peut faire plein de petites choses, arrêter une journée un petit peu plus tôt, travailler quand elle en a envie. Et voilà. Et donc aussi pour revenir à ces cours de français que je donnais à des enfants, j'ai adoré ce côté éducation, en fait. Déjà, j'adore les enfants. J'ai vraiment un côté très... je pense que je suis une grande enfant. On l'est tous, mais vraiment ce côté aussi créatif qui revenait à moi, en fait, qu'on explore avec les enfants parce qu'ils sont plein de créativité. Et je prenais des cours de dessin aussi à côté et je bloguais. Et en fait, je me suis rendu compte, toutes ces petites choses que je faisais de manière très instinctive, en mettant zéro pression financière, je me suis dit, Laure, tu t'offres un break de 6 mois et fais-toi kiffer, en fait. Fais ce qui te plaît. Et instinctivement, ce sont ces choses que la petite Laure aimait faire. Donc, dessiner, passer du temps avec des enfants, le côté créatif et en fait, écrire aussi. J'adore écrire depuis toujours et mes amis me disaient tout le temps, tiltait même pas, parce qu'à l'époque, jamais je me suis imaginé écrire un livre, mais elle me disait, mais alors tu devrais écrire un livre. Je dis, non, je suis pharmacien, je peux pas écrire un livre. Et en fait, c'est toutes ces petites choses qui remontaient à la surface. Et ensuite, ça a été une vraie révélation pour moi de voir l'impact, en fait, des changements de vie que j'avais opérés sur moi. Et en même temps, je me dis, Laure, t'as fait toutes ces études dans la santé, est-ce que t'as envie de tout abandonner? Donc en fait, pourquoi pas créer ton métier, un métier hybride, ce pharmacien naturopathe. Alors, je ne suis plus pharmacien, comme je te l'avais expliqué, puisque je pratique plus la pharmacie, mais du coup, de me former à une médecine qui, pour moi, avait beaucoup plus de sens. Donc en fait, ça, la formation, elle a commencé en 2016, à peu près un an après. Donc j'ai eu un an de break.
Ouais. Et du coup, une formation de quoi? Donc, de naturopathe?
De naturopathie. Donc, c'est 3 ans de formation. C'est assez intense. J'aurais pu, en tant que pharmacien, docteur en pharmacie, me dire, j'ai pas besoin, je vais, parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que la naturopathie, c'est une médecine qui est très peu réglementée. Il y a tout et surtout n'importe quoi en termes de formation. Donc, aujourd'hui, je trouve ça très dommage parce qu'en fait, c'est une médecine qui est pleine de bon sens scientifique, puisqu'elle utilise principalement donc la nutrition, les plantes. Donc je rappelle que 70% des médicaments sont issus des plantes, en fait. Donc la nature est vraiment guérisseuse, en fait. Et surtout, elle a une approche, la naturopathie, à l'inverse de l'allopathie, donc la médecine conventionnelle, que j'appelle la médecine pharmaceutique, c'est que nous, on soigne la cause, le terrain, et pas le symptôme. Et ça, scientifiquement, ça a tellement plus de sens que de soigner finalement ce symptôme qui arrive en fin de chaîne sans se poser la question d'où vient le problème. Et en soignant juste le symptôme, déjà, il y a des effets secondaires qui réapparaissent avec le traitement et surtout, la cause est toujours là. Donc, ça revient, voire ça s'empire et se développe en maladie. Donc, en fait, ça a été une révélation de Voilà, mais ce syndrome de la bonne élève qui veut recocher les cases proprement, je me suis dit, en plus, si le métier évolue, faut que j'ai une formation solide, je vais pas mettre de l'argent dans une formation bidon. Donc voilà, j'ai fait cette formation en bonne et due forme. À côté, j'ai fait d'autres formations en phyto-aromathérapie. Je me suis auto-formée énormément parce que ça reste un métier qu'on apprend toujours, en fait. C'est en continu.
Oui, il y a tellement des choses qui
évoluent. C'est ça, en fait.
Comment t'as fait financièrement, du coup, pendant ces 3 ans de formation?
Alors, bon, moi, j'avais des réserves, déjà, et mes parents, qui étaient très présents, et après, donc, un petit ami qui finalement payait beaucoup de choses dans le quotidien, mais aussi beaucoup de système D, c'est-à-dire que, évidemment, je suis très reconnaissante de l'aide que j'ai eue familiale. À côté de ça, je suis passée de la fille... Alors, j'ai jamais été ultra dépensière, mais j'adore les fringues, j'adore les restaurants, j'adore voyager. Je dépensais de manière raisonnée, mais je dépensais à un gros reset et me dire, mais en fait, j'ai pas besoin de tout ça. Et en fait, je l'ai même pas vu comme une privation. Parce que vraiment, ça a été... Je pense que ma notion de l'argent aussi a été très modifiée. Ma notion du matériel, parce que déjà... Bon, j'ai fait un gros travail là-dessus et qui est encore en cours parce que l'argent, surtout en tant qu'entrepreneur, les questions de finances reviennent régulièrement. Moi, c'est pas trop mon truc, la gestion financière. J'ai des gros blocages avec l'argent. J'ai l'impression que voilà, c'est. Je pense que il y a cette expérience que j'ai vécue aussi qui a un peu bousillé mon rapport à l'argent dans le sens où je gardais un job qui me faisait du mal, qui atteignait mon intégrité pour un salaire. Donc en fait, j'ai vu l'argent comme quelque chose de malpropre finalement, me dire. Je ne veux pas gagner d'argent parce que je veux, moi, prendre soin de moi. Donc, en fait, je pense qu'il y a eu un rapport à l'argent qui a été assez impacté. Mais voilà, ce système D m'a sauvée et surtout m'a inculqué des valeurs, finalement, ces valeurs que j'avais depuis toujours, en fait, que mes parents m'ont vraiment enseignées. On avait un très bon niveau de vie, mais c'est vrai qu'on vient d'une famille où les valeurs, l'argent... Alors, je dis pas que c'est tabou, c'est surtout du côté de mon papa, mais ce côté très économe, et surtout, ça ne fait pas la valeur des gens, en fait. On ne juge pas sur la valeur d'un titre social, de diplôme ou d'argent. Ça, c'est finalement un peu que de la parade aux yeux. Mais surtout, quelles sont tes vraies valeurs? Et je pense qu'elles ont pu ressortir quand j'ai mis un peu le côté matériel de côté.
Et là, je vois que t'as fait aussi, du coup, t'as repris, donc t'as fait ton école de naturopathie sur 3 ans, ouais. Et que t'as repris tes études aussi en parallèle pour être docteur en pharmacie avec à Paris.
Alors, non, c'est pas, alors, j'étais donc pharmacien. En fait, pharma, quand tu travailles dans l'industrie, à mon époque, on n'était pas obligé de passer notre thèse tout de suite.
Ok.
On pouvait pratiquer dans l'industrie sans être thésé. Et moi, en fait, mon sujet de thèse à l'époque, en 2010, quand j'ai fini mes études de pharma, me passionnait pas du tout. C'était sur le cancer de la prostate. Je me suis dit, franchement, et je bloquais. Et aussi, j'avais eu une situation chez ma répétitive de harcèlement avec une professeure de la fac. J'ai fait un rejet de ma fac qui a été catastrophique. Ça a été vraiment quelque chose qui sera dénoncé aujourd'hui. Une prof qui a été, mais poison, un vrai poison, et pas qu'avec moi. Bref, du coup, j'avais pas envie de soutenir ma thèse dans cette fac, clairement. Et ensuite, le chemin s'est fait et très rapidement, quand j'ai quitté l'industrie pharma, je me suis dit, Laure, il faut absolument que tu passes ta thèse. C'est cette espèce de bête noire, tu sais, peut-être ce syndrome de l'imposteur, de se dire, je mérite pas de la passer, d'être thésée, etc. Et surtout, je voulais qu'elle ait du sens, cette thèse. Et en fait, ça a été le fruit de cette transition de carrière, puisque j'ai décidé donc d'aborder un sujet assez, qui était raccord avec ce que je fais. Donc, c'est notamment, c'était la prévention des cancers par l'alimentation. Donc, un thème qui a fait débat dans une fac de pharma, tu peux bien imaginer, le pharmacien, le jury que j'avais, très pharma pur, commençait. Ça a été assez laborieux d'écrire cette thèse parce que je me confrontais à des pro-médicaments, beaucoup, je sais que même des personnes me disaient « Non mais Laure, l'alimentation, oui, mais ça fait pas tout. » Évidemment, c'est ta santé, c'est hyper important. Des choses, en fait, des plus vieux pharmaciens finalement qui n'ont pas, même moi d'ailleurs durant mes études, qui n'ont pas été éduqués à l'impact de la nutrition sur notre corps.
On en parlait justement avec, je sais pas si tu la connais, le docteur Laurence Plumet, qui était nutritionniste et ensuite elle est devenue diététicienne, c'est dans ce sens-là. Ouais. Et elle a créé la napsothérapie. pour le N de nutrition, AP pour physique et S pour sommeil, en disant que justement, elle avait fait le constat que dans son... Donc elle avait été nutritionniste, après elle est devenue... elle a repris ses études pour faire médecine, et elle s'est dit, mais c'est quand même un truc de malade que dans médecine, on ait X heures qui est ridicule sur la nutrition, alors que justement, c'est la base. Nutrition, c'est la base de notre quotidien. Mmh. Et du coup, elle avait créé une école pour les professionnels de santé.
Oui.
Pour les sensibiliser à ça, parce qu'elle dit, c'est la base de tout, quoi.
C'est hyper important. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les formations des professionnels de santé sont paramétrées à l'échelle gouvernementale, sous l'influence des lobbies pharmaceutiques. Donc, en fait, c'est tout un écosystème qui est super bien millimétré, orchestré. On a bien étudié aussi qu'aujourd'hui, un médecin généraliste, une infirmière, même des spécialistes n'ont pas le temps de passer du temps avec leurs patients. Donc, en fait, c'est à la chaîne carte vitale suivant. On traite que les symptômes et le soin passe automatiquement par un médicament.
On ne se demande pas, on ne réfléchit pas, en effet, à la cause. Dès que je suis malade ou dès que mes enfants sont malades, en fait, je regarde le dictionnaire des mots et des maladies et je regarde la source, tu vois, tu parlais du zona. Ma fille, elle a fait un zona à 9 ans. Bon, bah, ok, en fait, tu regardes la chronologie. Bon, on venait de se séparer avec son papa, donc tu regardes la chronologie.
Traumatisé, oui.
15 jours avant, il s'était passé un truc, choc émotionnel, bing, zona. Et en fait, tu te dis que... En effet, on n'a pas été élevé dans cette culture de c'est pas normal d'avoir mal. On n'a pas été élevé dans cette culture de dire si t'as mal, en fait c'est que ton corps veut t'envoyer un signal.
C'est ça. C'est le langage du corps qu'il faut absolument. Et si tu le baïonnes à coups de médicaments, en fait ton corps se sent pas écouté. Donc t'es de plus en plus en déconnexion en fait avec ce corps qui va un jour crier très fort et te foutre une maladie dans la tête et t'auras pas le choix derrière. Mmh. Et c'est vrai que bon, la naturopathie, nutrition, nous, on part sur le côté plus, donc, alimentaire, soigner aussi le terrain, etc. Et tout ce, en fait, c'est ça, ce terrain. C'est-à-dire que, au lieu de tuer un virus, soutenons nos défenses immunitaires. Parce qu'en fait, le meilleur médicament, et ça, on ne le dit pas, c'est nous, en fait. C'est nos défenses immunitaires. On donne tout le crédit à un médicament, alors que c'est vraiment l'immunité qui a fait tout le job. Et cette immunité, elle s'entretient grâce à une bonne hygiène de vie. Donc, c'est sûr que si vous mangez mal beaucoup de produits industriels avec beaucoup de pesticides, malheureusement, aujourd'hui, ça détruit énormément tout notre corps. Beaucoup de stress, des excitants, etc. Votre immunité, elle est complètement pourrie, en fait. Donc, le moindre virus, vous serez dépendant de médicaments. Vous aurez besoin de médicaments. Donc, c'est vrai que cette orchestration de la santé, je dirais que c'est même pas un business de la santé, c'est un business de la maladie. Je lisais d'ailleurs une phrase, je ne sais plus de qui disait « La médecine a fait tellement de progrès qu'aujourd'hui que tout le monde est malade. » C'est assez drôle. C'est vrai qu'on est plutôt mal en point. Mais voilà, on a des solutions, de belles solutions. Et aujourd'hui, je pense que déjà, ça passe par l'éducation, ces prises de conscience et casser les idées reçues. Non, le médicament, ce n'est pas un miracle. On peut se soigner de manière beaucoup plus efficace et durable et naturellement. Et c'est, voilà, moi, je pense qu'il y a quand même un climat politique qui devrait changer et intégrer la médecine préventive au cœur des formations des professionnels de santé, que ce soit les écoles d'infirmières, fac de médecine, de pharma, de tous, en fait. Et je pense que, voilà, moi, j'aimerais...
À l'école, en fait, en parler, tu vois, c'est ce que disait Laurence, elle, du coup, elle a créé un nouveau
métier. Ça, oui.
Et l'idée, c'est justement d'aller... intervenir en entreprise, aller intervenir dans les écoles pour pouvoir parler de tout ça, parce qu'en fait, sensibiliser, parce que finalement, on est tous acteurs de notre quotidien, de notre hygiène de vie. Et
les écoles, c'est super aussi, parce qu'aujourd'hui, si tu regardes là où on mange le moins bien, d'ailleurs, c'est à la cantine, les enfants, et c'est dans les hôpitaux. C'est là où, en fait, justement, on devrait super bien manger. Et les enfants, c'est vraiment, c'est catastrophique, en fait, les... taux d'obésité, de surpoids qui explose, la malbouffe, et vraiment c'est effrayant. Et je pense que les gouvernements, je ne sais pas ce qu'ils font là, très clairement, c'est désespérant, mais je pense qu'il y a tellement de belles choses à mettre en place. Et je pense commencer par reconnaître des médecines préventives comme la naturopathie, réglementer. Alors attention, parce que parfois la réglementation va brimer, on va dire, le cadre d'exercice d'un praticien, et parfois c'est pas toujours bien d'appartenir à un ordre parce qu'on est un petit peu trop cadré, mais les formations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vois énormément de gens se former à la naturopathie, c'est super, mais certes, il y a des personnes qui me disent, Laure, quel livre je dois lire pour devenir naturopathe? Alors déjà, c'est pas dans un livre. Déjà, tu peux acheter mon livre avec grand plaisir, mais tu seras pas naturopathe parce que c'est un métier, ça s'apprend. Même moi qui ai fait des études médicales poussées avant, j'ai tout réappris. Ça a été une toute nouvelle science à apprendre. Et j'apprends encore toujours. Je me suis encore reformée récemment, notamment sur le microbiote intestinal. Il y a énormément de choses à... C'est complexe, en fait. Et je pense que...
Ça évolue beaucoup, en plus. Enfin, tout ce qui est microbiote, ouais. C'est vraiment... On est au début de...
Oui, on a découvert beaucoup de choses, là. Et c'est surtout, en fait, cet écosystème microbien est le reflet, en fait, de notre propre santé. Donc, aujourd'hui, il y a évidemment aussi toute cette tendance des probiotiques. C'est super, mais... En fait, c'est comme mettre un petit peu de terreau sur une terre qu'on continue d'aseptiser à coups de pesticides. En fait, ils vont pas survivre. Donc vraiment, soigner le terrain, c'est ce qu'il y a de plus logique, vraiment.
Top. Donc du coup, là, tu suis ton cursus.
Voilà, en parallèle, je soutiens ma thèse aussi, donc à la fac de Paris. Donc au final, je suis diplômée de Paris, ce qui est plutôt chouette. Et ça a été un moment très très intense, mais un super beau moment, puisque au moment du soutien de la thèse, j'ai eu les félicitations de la directrice de thèse, de la présidente du jury, qui m'a dit « Enfin, ça fait du bien d'ébouriffer tout ça, ces médicaments, on en a marre ». Et du coup, j'ai adoré ce discours et elle m'a vraiment fait un appel du pied en me disant « Mais il nous faut des gens comme toi dans les facs, en fait. Il faut vraiment remettre au goût du jour, en fait, la science. On voit bien aujourd'hui que le médicament, certes, sauve des vies dans beaucoup de situations, on en a besoin, mais à ses limites. Et ce sont des médecines qui devraient marcher main dans la main, en fait. Plutôt que d'être complémentaires, ça devrait être... Moi, je pense que les médecines préventives devraient être la base, la première médecine. Et en cas d'urgence, on aurait la médecine, les médicaments, qui devraient être complémentaires, finalement.
C'est ça. Et donc là, tu finis ton école. Qu'est-ce que, professionnellement, qu'est-ce que tu dis que tu as envie de faire?
Alors, du coup, ça s'est vraiment fait en parallèle. C'est-à-dire que durant mes études, je commençais à bosser mon projet. J'avais déjà une idée très précise de devenir naturopathe. Très rapidement, je me suis dit, il faut que j'ai un cabinet, que je pratique, etc. Et là, j'avais vu une coach à ce moment-là. Donc, j'ai vu plusieurs coachs, on va dire, au cours de ma vie. Là, actuellement, notamment, je suis encore dans une grosse phase de introspection aussi. Bref, et elle me dit, c'est rigolo, Laure, parce que... Et en parallèle, j'avais créé mon compte Instagram. Je le faisais de manière assez fun. J'avais adoré, en fait, faire ça. Et en fait, elle me dit, Laure, c'est marrant parce que tu me dis... il faut que je trouve un cabinet, il faut que je fasse des consultations. Et quand tu t'es mise à parler d'Insta, t'as tes yeux qui sont illuminés, t'adores écrire, t'adores faire ça. Je me dis, mais là, en fait, c'est l'écriture, c'est ça que tu aimes. Donc, pourquoi faire des « il faut » Tu ne t'es pas fait chier à quitter tout ce secteur que tu n'aimais plus pour repartir dans un moule, finalement, qui ne te correspond pas. Et encore une fois, le métier de naturopathe, je l'ai un petit peu ébouriffé parce que je me sentais pas du tout être cette naturopathe dans son cabinet. Clairement pas, en fait. Vraiment.
Ah, derrière ton comptoir à la pharmacie.
Sûrement pas. Non plus, à vendre des compléments alimentaires, clairement pas. Donc, en fait, j'ai dû inventer un peu mes propres codes. Je me suis beaucoup inspirée, notamment de nutritionnistes américaines. Et je pense que, bon, les US ont toujours un petit train d'avance. L'Angleterre aussi, qui est très, très innovante sur la médecine préventive, personnalisée. Donc, c'est vrai que la médecine fonctionnelle, donc ça a été quand même, on va dire, un gros boost de ce côté-là en termes d'inspiration. Et en fait, donc j'ai créé ma méthode donc digitale. Aujourd'hui, elle est 100% digitale. Je n'exclus pas le fait de faire du présentiel parce que récemment, notamment, je fais des conférences et je me rends compte que j'adore ça. Et rencontrer les gens, c'est une énergie qui est géniale. Mais je me suis quand même rendu compte que malheureusement, on est tous super connectés et que pour éduquer un patient, ça ne se fait pas en une heure dans un cabinet, mais ça se fait dans son quotidien. Donc, rien de mieux que le format digital pour être dans le quotidien des gens. Donc, la méthode que j'ai créée, donc la méthode Reset, qui est une invitation à opérer, comme son nom l'indique, un reset de notre hygiène de vie, notre alimentation. Il y a un gros, gros focus sur le ventre, la digestion, parce qu'évidemment, parfois, les problèmes vont être d'ordre digestif, des ballonnements, le ventre gonflé, etc. Mais pas toujours. Il y a des personnes qui vont avoir des problèmes d'asthme, d'eczéma, dérèglement hormonal, résistance à la perte de poids, fatigue. Et ça vient du ventre. Ça vient de l'alimentation et de votre digestion. Donc, du coup, c'est le propre de cette méthode d'allier de l'éducation à de l'inspiration. Et voilà. Et du coup, c'est une méthode que j'ai créée pour moi. Je suis ma première patiente, en fait, et que j'ai fait un paquet de fails, de protocoles farfelus. J'ai essayé des trucs, mais complètement... voilà, je suis vraiment mon cobaye. Et mes proches aussi ont testé beaucoup de choses qui ont été adorables parce qu'ils étaient très adeptes de tout ça. Et ça a permis vraiment d'extraire une formule de cure qui est vraiment plutôt chouette.
Oh, chouette. Comment t'écoutes ton intuition?
De plusieurs façons. Alors, j'ai mis en place un petit processus. Alors, j'aime beaucoup écrire, comme tu as pu le voir. Et c'est vrai que pour moi, l'écrit, c'est une manière d'extérioriser, en fait, ce qu'il y a au fond de moi. Alors, ça passe déjà par la méditation que je pratique depuis beaucoup d'années, en fait, et que j'essaie de manière très régulière parce que je trouve que c'est pas le tout de faire une heure de méditation. Déjà, une heure, c'est énorme. Mais voilà, tous les matins, ce matin, au réveil, c'est quoi, 12 minutes, j'ai ma petite séance de méditation, visualisation, etc. Donc, je suis très réceptive à cet état méditatif. Et quand tu es dans cet état méditatif, c'est là où tu peux faire justement des exercices qui te connectent, en fait, à toi-même. Et en fait, j'ai mis en place le journal du belly, donc de mon petit ventre. Et du coup, je prends un stylo, une feuille de papier. Et là, j'écris comme si c'était mon petit ventre qui écrivait et qui libérait tout ce qu'il a à libérer, ce qu'il a à dire, à raconter. Je me rends compte que souvent, ce petit ventre, bah, en fait, c'est la petite Laure, c'est mon enfant intérieur et c'est moi, finalement, le vrai moi qui est en train de parler et qui vraiment m'apprend beaucoup de choses, qui me dit des choses même encore aujourd'hui où je suis évidemment beaucoup plus alignée, mais pas encore à 100%. C'est un travail d'une vie, hein, je pense, cet alignement. Et c'est... Les techniques de journaling, moi, m'aident beaucoup, mais dans cet état méditatif, et c'est ce qu'on appelle aussi des écritures intuitives, en fait, où je me connecte de plus en plus. Ça fait quelques années, ça fait à peu près 5 ans, je suis beaucoup plus ouverte. Alors, j'ai toujours été très intéressée par l'astrologie, les voyances, ce genre de choses. J'ai toujours été passionnée de ce monde un petit peu impalpable, en fait, invisible, sans être forcément, voilà, je pratiquais pas forcément beaucoup, mais bref. Et récemment, enfin pas récemment, ça fait 5 ans, je me suis mise à tirer des cartes aussi. J'adore tirer des cartes.
Quoi, le tarot de Marseille?
Alors non, t'as pas tarot de Marseille. Je suis pas formée en fait vraiment en tarot, okay. Donc c'est plutôt des oracles.
Okay.
Donc très honnêtement, c'est des oracles qui sont très basiques. C'est toutes les collections des oracles du Femme Actuelle de chaque année, de Astro Femme Actuelle. Bon bref, et j'en ai fait quelque chose. J'ai l'oracle G. Enfin, j'ai plusieurs types d'oracles en fait.
Okay.
Et j'ai ce genre de petits outils en fait qui m'aident à quand je suis face à un dilemme, à moi-même, ou je sais pas, en fait, à faire ressortir des émotions, en fait, elles ne sont que le reflet, ces cartes, de ce qu'il y a en nous, qu'on n'arrive pas à exprimer. Et du coup, ce sont plein de petits supports à vous trouver les vôtres, en fait, mais vraiment qui m'aident à faire des séances de, un peu d'introspection, qui me connectent à mon intuition.
J'ai découvert les oracles avec une invitée du podcast parce que c'était son objet. Donc, d'accord. C'était 3 ans, je crois, quelque chose comme ça. Et depuis, j'en ai plein et je trouve ça en effet super chouette. Et c'est vraiment incroyable de voir. Là, j'en ai reçu un. Alors, je l'ai pas sous les yeux, donc du coup, j'ai plus son nom exact. Mais c'est, ouais. C'est l'oracle de joie, bonheur, je sais pas, amour, un truc comme ça.
Ouais.
Et il est hyper simple et du coup, je le fais avec mes enfants. Mmh. Il est joli, il est coloré et tout. Après, moi, j'en
inspire. Ouais, c'est important.
J'en ai un qui est bon, pour le coup, je le fais moi toute seule parce que il est un peu plus dans un degré un peu plus élevé. J'ai un oracle des chamans, donc tout est en noir et blanc. C'est des très beaux dessins, mais tout est en noir et blanc. Et puis t'as trois quatre pages à chaque fois, c'est assez intense. Mais je trouve ça chouette aussi, notamment, tu vois, là, il y a eu la pleine lune il y a pas longtemps, de faire un tirage en fonction de la lune. Et c'est vrai que moi, chaque fois que je tire des cartes pour moi ou pour d'autres personnes, c'est
très révélateur.
La pertinence, quoi. Ouais. La semaine dernière, un dîner avec des copines.
Oui, entre amis, c'est sympa. J'adore.
Et il y en a une qui a un côté assez business. Et en gros, sa question, c'était justement comment ça va être au niveau business l'année prochaine. Et ça lui a été un truc genre, profite déjà de ce que tu as. Et c'est déjà...
Oui, sois déjà satisfaite, oui.
Ouais, et déjà, profite de tout ce que tu as. Et en effet, c'était tellement... pour elle, quoi.
Mais c'est vraiment... Après, je pense que c'est qu'un support, en fait. Et nous, c'est probablement cette hypersensibilité que l'on ressent. Je pense qu'on a tous ça en nous, plus ou moins. On le développe plus ou moins. Mais c'est vrai que j'ai été révélée à ça par une thérapeute, notamment, qui m'a fait faire certains exercices, qui a testé ces dons de médiumnité, en fait, du ressenti. Et vraiment, je pense que dans nos vies de tous les jours et dans l'entrepreneuriat, surtout quand on est solopreneur, en fait, c'est hyper important d'avoir une bonne intuition, un bon flair, savoir si là, on le sent ou on le sent pas. c'est vrai que très souvent, j'ai une capacité de ressenti des gens, en fait, où je vais au-delà des signaux qu'ils m'envoient, au-delà de ce langage, tu ressens. Et à chaque fois que je me suis pas écoutée, bah, bingo, j'avais vu tout juste, je ressentais pas des gens dans le business. C'est super important parce que surtout aujourd'hui, l'économie qui est très compliquée, t'as intérêt à avoir un sens bien aiguisé de ressenti et d'intuition. Et en fait, oui, pour revenir à ce que tu disais, c'est pareil. En fait, avec une amie, on s'est vraiment prise à tirer les cartes mutuellement. On s'est tiré les cartes. On était dans un moment de notre vie un peu perdu et on avait envie d'être nos petites voyantes. Et c'était fun. Vraiment, j'ai adoré. Et c'est vrai qu'il y a, des choses. Je me suis même retrouvée une fois à tirer les cartes dans un hôtel où on était. On prenait un petit verre et il y avait les serveurs à la fin qui nous voyaient faire. Et on avait mis tout le petit spectacle. Tu as le foulard, Madame Irma, etc. Et ils n'y croyaient pas du tout et ils nous ont dit bah écoutez on veut bien essayer et je n'avais jamais tiré les cartes pour personne en fait et je me suis révélée être pas mauvaise puisque j'avais vu que l'un d'eux avait eu un problème avec la justice un problème de garde d'enfants etc et je me suis dit j'ai peut-être une vocation ratée
voyance après ça peut être quelque chose que tu ajoutes aussi dans ton quotidien
exactement voilà c'est ça
sans pour autant
évidemment mais
ouais.
Ça peut un support
où tu vois bah d'ailleurs typiquement tous les mois j'ai des ateliers avec mes clientes et c'est pas moi qui anime, c'est toujours une coach qui anime, mais je suis toujours là en support, en soutien. Et et la fois il y a un mois, je leur ai dit bah si vous voulez, je crois que c'était, je sais plus la thématique, c'était comment lever les peurs ou quelque chose comme ça. Et finalement, c'était savoir identifier quelle était la peur la plus profonde. Et je leur ai dit, écoutez, c'était pas prévu, mais si vous voulez, j'ai l'oracle sous la main.
Ouais.
Je fais un tirage pour savoir, en gros, qu'est-ce que ça dit. Et elles m'ont toutes regardé genre, waouh.
C'est bluffant, ouais.
C'est fou, ouais.
Mais je pense que oui, on a après, encore une fois, c'est ce support. Et nous aussi, on est une forme, ce canal, la médiumnité, le médium, c'est un canal, mais c'est ces entités au-delà du corps physique. Et je pense qu'aujourd'hui, pour revenir à la santé, c'est qu'on va vraiment réduire le corps à un symptôme, un médicament après, mais à un corps physique. Et aujourd'hui, on est impacté par beaucoup de choses autres qui ne sont pas que dans le visible, en fait, mais tous ces champs énergétiques aussi qui nous entourent. On est fait constituer d'énergie. Je crois que c'est à 99% de vide où l'énergie circule. Et évidemment que soigner que le côté et la part physique qui est finalement finale, en fait, dans la manifestation d'un problème. Et souvent, il faut investiguer, aller beaucoup plus dans cet émotionnel. Voilà, je sais qu'on en avait parlé, mais parfois aussi, en fait, on va pas transmettre à nos enfants que des gènes, en fait, mais beaucoup de nos bagages émotionnels, même inconscients, des secrets de famille, des traumatismes, en fait, qui ont été vécus par les générations du dessus. On voit énormément de schémas répétitifs, de maladies répétitives. Aujourd'hui, on parle beaucoup, notamment cette notion, comme je disais, de médecin de famille. Ça a tout son sens parce qu'en fait, soigner une personne, elle est connectée à sa famille, d'un point de vue pas seulement génétique, mais vraiment d'un point de vue émotionnel et
réditoire. On porte dans nos cellules les traumatismes, les souvenirs vécus par... tu prêches, ouais, tu vois, la semaine dernière, j'ai vécu un truc assez incroyable avec je me sentais bloquée sur plein de choses, à la fois physiquement, mais mentalement aussi. Et j'ai fait je savais que j'avais un truc qui me bloquait et je savais que c'était un truc transgénérationnel. Pourtant, j'avais déjà essayé de le bosser avec une magnétiseuse, mais ça avait pas, j'avais essayé de le bosser avec la magnétiseuse, j'avais essayé de le bosser avec ma psy. Je sentais que ça bloquait. Et bon, comme les choses sont bien faites dans la vie, il y a une personne que je connaissais qui est magnétiseur, mais un peu plus, entre guillemets, parce qu'il a une corde à son arc différente qui te permet vraiment de te nettoyer de tout ce qui est transgénérationnel, de tout ce qui est blessure karmique. Alors, on croit ou pas à tout ça. Mais alors, franchement, ça a été un truc de dingue entre le début de ce, enfin, ouais, c'est un moment où je sentais qu'il y avait un truc qui me bloquait. Mais là, si tu veux, depuis, j'ai des ailes qui m'ont poussé, quoi. Enfin, c'est un truc vraiment.
Je veux bien demander cette personne.
Si tu veux, je vais lui faire sa pub. Je vais lui faire sa pub parce que franchement, ça m'a libérée d'un truc, mais c'était impressionnant, quoi.
Après, moi, je pense aussi une chose dans tout ce parcours de guérison, c'est qu'il y a les bonnes personnes au bon moment. Et c'est cette connexion entre le thérapeute et toi, en fait. C'est-à-dire être prête à à faire pousser ses ailes. Peut-être que tu l'aurais rencontré il y a un an, ça n'aurait pas.
Ah non, mais c'est sûr et certain.
Peut-être que les thérapeutes que t'as vus où ça ne marchait pas, c'est que ce moment-là, t'étais pas prête. Et chacune, moi, je sais que j'ai entrepris beaucoup de thérapies autres que forcément la nutrition. Donc ça, c'était ma partie évidemment, mais au niveau, alors moi, je suis pas très conventionnelle aussi dans tout ce qui est santé mentale, c'est-à-dire que franchement, bouffer des médocs, c'était pas mon truc. Je ne critique pas. Parfois, on fait face à des choses de la vie, on n'a pas le choix que de prendre des antidépresseurs, anxiolytiques. Moi, c'est pas du tout mon truc, et je, en tant que pharmacien, je sais trop.
Si on peut éviter. Enfin, moi, je sais que j'en ai pas pris pendant mon burn-out. Si tu peux éviter, enfin, si on peut éviter, c'est vraiment le mieux, quoi.
C'est ça, et surtout que ça ne soigne pas le problème. Donc, si vous en prenez parce que vous n'avez pas le choix à l'instant T, vous êtes tellement mal, négligez pas le fait que vous n'avez pas soigné le problème et qu'il faut entreprendre d'autres thérapies. Et en fait, je trouve ça très difficile de trouver un bon thérapeute. Et souvent, alors, je sais que moi, je suis pourtant assez fidèle, mais j'ai un peu une sorte de petite panoplie de différents thérapeutes qui vont m'apporter des outils différents. J'adore l'hypnose. J'ai la chance d'être très réceptive à l'hypnose. J'avais fait de l'hypnose régressive. J'avais travaillé sur le transgénérationnel, magnétiseur aussi. Ça, évidemment, c'est quelque chose de passionnant, je trouve. En fait, c'est un don. Et voilà. Et après, c'est vrai qu'il y a des personnes qui m'ont fait faire des bons, en fait, d'un coup, comme ça. Et probablement parce que le travail des autres avant.
Bien sûr, ah bah, clairement. Ouais, clairement, parce que tu vois, quand il m'a dit à ça, j'ai dit, bah oui, mais en fait, j'avais tellement réfléchi plein de choses avec d'autres techniques, en effet, via l'hypnose, il y a plein de choses, que du coup, en effet, ça permet de prendre conscience, et de désancrer beaucoup plus rapidement. Et je suis complètement d'accord avec toi sur le fait que, tu vois, c'est marrant parce que j'ai fait un post justement dimanche dernier sur Insta en disant que il faut pas lâcher, mais qu'en fait finalement parfois on te dit non, t'es dégoûté parce que ou t'as essayé quelque chose et ça a pas marché, mais qu'en fait c'est que c'était pas le bon moment et que faut pas se dire c'est pas ça a pas marché sur moi aujourd'hui que ça marchera pas demain, parce qu'en effet il y a un bon moment et que on n'est pas forcément capable de l'entendre, de le voir, de
Un enseignement derrière une blessure, en fait. Et souvent, si les choses ne fonctionnent pas et que tu as encore ce problème, c'est qu'il y a encore un truc que tu n'as pas compris, que tu dois travailler, accepter, prendre conscience, pardonner, lâcher prise. C'est long. Il faut être courageux quand on fait face à ça. Mais tu apprends énormément sur toi et sur les autres, ton entourage. Oui. Et c'est intéressant. Et être bienveillant, même presque mieux comprendre, même certaines personnes qui ont pu avoir des réflexions pas agréables ou etc., de comprendre en fait que je pense qu'il n'y a pas tant de personnes méchantes que des gens qui souffrent, en fait. Et
clairement, les gens les plus agressifs, c'est les gens qui sont les plus mal, c'est sûr.
Oui, très souvent les gens, la colère, c'est souvent une belle souffrance. Ouais.
Comment tu célèbres tes réussites?
Avec mes parents et une coupe de crémant de Bourgogne, parce que forcément je viens de cette région. Non, comment je les célèbre? C'est vrai, peut-être pas assez, mais quoique, tu vois, mon livre, je lui fais son anniversaire tous les ans comme un bébé. C'est mon petit bébé, en fait, ce baby book. Comment je les célèbre? Bah écoute, avec mes proches, ça reste très simple en fait, mais c'est souvent un bon restaurant. Et non, c'est vrai que j'ai la chance d'être très soutenue, en fait, dans l'entourage proche. J'ai ce petit cocon famille qui est vraiment super cheerleader, en fait. Donc ça, c'est chouette. Je sais que tout le monde n'a pas cette chance. Je n'ai pas que de ça dans mon entourage, hein. J'ai beaucoup de personnes qui, clairement, dans l'entourage, soit s'en foutent, soit vont me tirer dans les pattes ou être même parfois jaloux. Enfin, on fait face à beaucoup de choses quand on entreprend, des critiques, des gens qui projettent leur propre peur sur toi, et parfois ça peut être tes propres parents, les gens que tu aimes le plus. Et je dirais que le plus dur, c'est de pas être trop influençable, en fait, dans ces cas-là, et vraiment toujours s'écouter soi. Mais c'est difficile quand les gens qui sont le plus importants pour nous, en fait, nous soutiennent pas nos rêves ou n'y croient pas.
Et parfois tu penses qu'ils te soutiennent mais ils ne te soutiennent pas en vrai.
Oui, aussi, ouais. Ouais, ça peut arriver, c'est vrai. Ouais. Bah non, c'est pas simple. Hein. Ou alors ils n'ont pas le soutien que toi tu attends. C'est vrai que par exemple mon ex-conjoint aussi, on n'a pas du tout la même façon d'entreprendre. Lui aussi, il est entrepreneur et on travaille pas de la même façon. On est diamétralement opposés et il pensait me soutenir, mais en fait tout ce qu'il me disait, ça m'angoissait. Et du coup, ça faisait l'effet opposé. Et c'est vrai que souvent, je pense que ce qu'on attend de l'entourage, c'est pas des solutions, c'est de l'écoute et de la compréhension et un non-jugement. Donc, si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui entreprend, quel que soit ce que vous pensez, en fait, on s'en fout, soutenez-le parce que c'est tout ce qui compte, en fait.
C'est quoi pour toi la réussite?
La réussite, c'est l'équilibre, en fait. Je dirais que c'est vraiment ce bien-être. Tu vois, il y a quelques années, je t'aurais dit quelque chose de plus visible, c'est avoir un bel appartement, c'est gagner tant par mois, voyager, etc. Donc, ce côté plus en façade, je dirais que c'est vraiment cette réussite pour moi, c'est tous les matins de pas avoir ma boule au ventre. Et là, je me dis, j'ai réussi. Et aujourd'hui, même si clairement, je ne suis pas encore arrivée à un niveau de vie que j'avais avant, financièrement, je désespère pas parce que je pense vraiment qu'il y a un très beau potentiel dans ce projet. Il faut juste que je mette encore plus de cordes, pas de cordes à mon arc, mais que je me fasse aider aussi. C'est accepter déjà de se, bah, là, on est bon et là, on a besoin d'aide aussi. Mais, alors, attends, c'était quoi la question? Excuse-moi, c'était la réussite.
C'était, c'est quoi
oui,
pour faire
cette richesse? En fait, cette richesse, aujourd'hui, elle est multiple, elle ne passe pas que par le financier. En fait, c'est vraiment ce bien-être le matin quand vous réveillez, de voir des gens que vous aimez, des gens inspirants qui vous passionnent. Par exemple, de faire cette interview, c'est un bonheur. En fait, tu dis, tiens, ce matin, j'ai 2 heures d'interview avec une nana, on est super connectés, on a plein de choses à raconter. Mais c'est une chance inouïe, en fait, de te dire que c'est quand même 80% de ta vie de faire des choses qui te plaisent. Et pour moi, ça, c'est la réussite. C'est vraiment... Et je dirais que la réussite ultime, c'est peut-être ce besoin de reconnaissance, je ne sais pas, mais c'est de vraiment que tout ce que je fais puisse bénéficier au maximum aux gens, donc d'avoir plus d'impact et de visibilité, en fait, de ce travail pour pouvoir l'offrir à un max de personnes et leur ouvrir les yeux sur le pouvoir qu'on a tous, en fait, de rester en bonne santé.
Sûr. Qu'est-ce que tu penses que la petite Laure de 6 ans dirait si elle te voyait aujourd'hui?
Bravo. Enfin, tu t'es mis, tu m'as écouté. Non, vraiment, je pense qu'elle serait super fière et je crois qu'inconsciemment, la femme que je suis, que je deviens et qui est encore en pleine évolution, là, vraiment, je suis encore aux prémices de de cette renaissance. Je pense que, c'est ce que j'avais en moi, je le ressentais. J'ai presque cette intuition, déjà, la petite Laure, elle est toujours en moi. En fait, elle est partie dans le voyage avec moi. Et non, je pense qu'elle serait fière, vraiment, parce qu'elle sait que c'est pas évident, et que, enfin, pour tout le monde, hein, se construire, on passe par beaucoup d'embûches. C'est pas tout rose, très clairement. Je pense que parfois on peut donner une vision, ce qu'on voit, par exemple, même sur les réseaux sociaux, où l'entrepreneuriat est hyper sexy en ce moment. On a l'impression que tout le monde veut monter sa boîte, son projet, mais c'est des grosses galères, c'est super compliqué. En France, surtout, c'est pas simple. L'environnement pour les petits entrepreneurs est défavorable pour nous, c'est compliqué, mais ça teste nos passions.
C'est facile, en fait, c'est très facile d'y accéder, parce que maintenant, tu peux créer une boîte en un clin d'œil,
oui.
Mais en effet, ouais, tous les jours, on n'a pas de filet de sécurité, on n'a pas le chômage, on cotise pour le chômage, on n'y a pas le droit.
Oui, exactement. Au niveau social, je trouve que l'employeur, c'est vrai que bon, je suis très pour les lois sociales, c'est top. La France, c'est un Eldorado social. En fait, c'est parfait pour les salariés, cadres, une grosse boîte. Je pense qu'aujourd'hui, l'économie actuelle, elle ne laisse la place qu'à des grosses structures de survivre. Les petites PME. Les indépendants, en tant qu'employeurs ou même juste solopreneurs, en fait, tout seul, c'est écrouant. C'est vraiment écrouant. Et j'ai fait ce parallèle avec l'Angleterre, qui est pas du tout formée de la même façon. La France, et en effet, tu donnes énormément, en fait, de taxes, alors que toi, en tant que dirigeant, en fait, t'as rien, en fait, au bout du compte. Enfin, moi, personnellement, ma retraite, je pense que j'aurais rien. J'ai pas de chômage. Ma santé, au final, je me soigne différemment. Et je dois payer ma santé. Enfin, c'est vrai, je me dis pourquoi donner autant alors que moi, je n'obtiens rien. Le principe des taxes, normalement, c'est d'avoir aussi un équilibre. Voilà. Donc, je pense que oui, pour être, faut être sacrément motivé et pas être drivé que par l'argent aussi.
De toute façon, quand tu drives tout par l'argent, c'est pas une bonne énergie. À quel moment dans ta vie tu t'es dit pourquoi pas moi?
Je crois que depuis que je suis née. non, ça a pris plusieurs phases. Alors, pourquoi pas moi par rapport à ce projet? Je dirais que c'était en 2016 à peu près. J'ai entrepris mes études de naturo où je me suis dit, go là, c'est ce que t'as en toi depuis toujours de créer quelque chose, en fait, de vouloir faire ton propre métier finalement et oser, en fait. Et je crois que je me le répète tous les jours et je me le dis encore aujourd'hui puisque là, je suis en grande phase de transition aussi dans mon business. Je revois beaucoup de choses. Je suis un coaching là actuellement, notamment avec une personne qui est juste géniale en fait et qui me permet, donc elle s'appelle Elodie Crépel, pour ceux qui écoutent, ça peut aussi m'inspirer. Je lui fais sa pub vraiment très volontiers parce que elle est coach pour hypersensible. Et c'est là où je me suis rendu compte que mon hypersensibilité, c'était ma plus belle force en fait, mais aussi mon plus gros handicap au quotidien. J'ai plein d'idées, j'arrivais pas à canaliser. Et aussi admettre tes forces et tes faiblesses et voir tes limites pour être dans ce qu'elle appelle cette zone de génie et te dire bah là en fait t'es pas forcément la meilleure, donc pourquoi pas soit déléguée ou trouve d'autres sources en fait. Et je pense que je me suis dit pourquoi pas moi. J'ai encore ce côté oser être chef d'entreprise et ça c'est je pense un gros step pour moi de comprendre, démanteler tous ces blocages que j'ai face à l'argent, face à cette légitimité de porter un projet, d'être chef d'entreprise, d'être dirigeant, de pourquoi pas un jour embaucher aussi des personnes. Et je pense que c'est un apprentissage. Il y a des gens qui ont ça en eux depuis toujours et d'autres pour qui c'est un petit peu plus contre nature. Et voilà, je pense que là, aujourd'hui, je me dis pourquoi pas moi.
Oh, chouette. Clairement, la zone de génie, ça a été... inventé par Gay Hendricks, il en parle très bien dans un livre qui s'appelle Le Grand Saut. Et tu vois, moi, dans mon programme, c'est justement, j'aide les personnes à trouver ce qui est leur zone de génie pour se dire, bah, en fait, t'as la zone d'incompétence, ça sert à rien de le faire. La zone de compétence, la zone d'excellence. Et tu peux être excellent dans ton travail, mais si tu n'as pas ce qui t'apporte du sens, en fait, tu vas te tuer à petit feu. Et c'est ce qui provoque notamment les burn-out, parce qu'en fait... Tu peux être très très bonne dans ton métier, avoir les compétences pour ça, mais s'il n'y a pas cette flamme, ce truc-là, ben en fait, la flamme, ça sera une flamme qui va te consumer plutôt qu'une flamme qui va te.
Exactement. C'est faux de voir aussi sur la productivité, par exemple. L'écriture de mon livre, en fait, ça a été un moment assez rigolo parce que ça s'est étalé sur 9 mois. Donc c'est pour ça que j'ai dit que c'est comme un bébé finalement. Et très honnêtement, je pense que les vrais moments d'écriture où t'as l'inspiration, le jus créatif qui vient, étaient très courts en fait. Et j'avais pour chaque chapitre, je me rappelle, peut-être 20 minutes où j'écrivais à fond, au taquet, j'écrivais plein de choses. Plein de lignes. Et ça, c'est pour des gens qui sont moins créatifs, c'était la partie la plus dure pour moi, ça a été la partie la plus naturelle. Mais après, ce qui a été très compliqué pour moi, c'était la synthèse, reformuler les phrases, remettre tout en forme, etc. Ce côté plus synthétique, finalement, qui a une autre capacité intellectuelle, finalement, qui était pour moi un petit peu plus difficile et qui m'a pris le plus de temps, au final. Donc, voilà. Identifier comment fonctionne le cerveau.
Ouais, c'est savoir comment cerveau. Fonctionne et pour se dire, ouais, carrément. Et puis, comme tu disais, éventuellement se faire aider. Moi, tu vois, typiquement, pour mon livre, au début, il y avait 3 interviews de personnes et il fallait réécrire les interviews en un peu en histoire, tu vois. Ouais. Et moi, je me suis dit, c'est pas ma zone de génie, en fait. Je sais pas faire. Je saurais faire s'il fallait. Mais je me suis pas sentie appelée par ça. Et donc, du coup, j'ai dit à ma maison d'édition, écoutez-moi, je fais l'interview en podcast, c'est pas diffusé, je vous donne les bandes et on trouve quelqu'un pour écrire. Parce qu'en fait, c'est pas là où ça va m'éclater.
C'est pas là où tu canalises le mieux ton énergie.
Exactement.
Ouais. C'est ça. Ouais.
Carrément.
Si tu veux pas essouffler ton projet, c'est après, parfois, on n'a pas trop le choix financièrement. On peut pas toujours j'adorerais dire bah tiens toi tu me fais ça vraiment ce serait génial. Parfois on se retrouve les manches, on se surprend à faire plein de métiers à la fois, mais c'est dès qu'on peut sous-traiter, déléguer, c'est vraiment une chance
pour ouais, après tu vois c'est un vrai sujet dont je parle souvent avec d'autres entrepreneuses, c'est que le fait de déléguer, en fait ça dépend de qui tu es. Tu vois, typiquement par exemple, moi je sais que le temps de faire le brief, de trouver le prestat, je l'aurais fait, en fait, le truc.
Oui.
Et du coup, c'est ça, c'est se poser la question. En effet, bon, par exemple, tu vois, la comptabilité, moi, je délègue. Parce que, les chiffres et moi, on n'est vraiment pas copains. Et là, tu vois, j'ai eu mon rendez-vous de mon bilan comptable la semaine dernière. À tous les jours, je suis contente de prendre un comptable parce qu'en fait, c'est moi qui fais mes factures et compagnie. Mais par contre, faire le bilan comptable, c'est un métier, quoi.
Ah oui, non, c'est.
Même clairement. S'il y a d'autres choses qui sont des métiers, mais il y a des. Enfin, voilà, c'est chacun qui doit se dire. Ouais. Et ça me coûte de l'argent tous les mois, mais par contre, enfin, il est hors de question que pour rien au monde, j'enlève cette ligne. Dans la vie, on dit que quand on fait des choix, il y a des renoncements. C'est quoi pour toi les renoncements aujourd'hui?
Je pense que ça a pu être, mais ça n'a pas été perçu comme un sacrifice, mais ce que je disais, c'est-à-dire de peut-être renoncer à un autre confort matériel, alors même que je ne suis pas du tout malheureuse, clairement pas, loin de là. Et je pense qu'il y a même une belle évolution de ce côté-là. En revanche, ouais, peut-être, bah, tu vois, le renoncement d'une sécurité financière aussi. Ça, c'était un vrai renoncement. J'aurais très bien pu, comme toutes mes amies, avoir ce job beaucoup plus confortable de salarié cadre dans un gros labo avec une belle retraite qui m'attend à la clé et un beau salaire et des bonus. C'est vrai que parfois, quand j'entends certaines de mes amies, je me dis, merde, on a peut-être fait. Mais à aucun moment, alors certaines sont très épanouies, d'autres pas du tout. Et là, je me dis, mais finalement, c'est une question de, voilà, on fait des choix dans une vie. Je sais que beaucoup font le choix du confort, de la stabilité, je dirais, mais qui vont s'embêter. Moi, ça me correspond pas. Je pense que j'ai besoin. Alors, j'ai besoin, évidemment, comme tout le monde, de stabilité, mais j'ai besoin d'une vie qui est malléable, en fait, que je peux façonner. Ce côté créatif ne pouvait que s'épanouir dans ce type d'environnement, je pense, pour moi.
C'est quoi la plus grande difficulté que tu as eu à traverser?
Ah, il y en a eu beaucoup. La plus grande, je dirais que c'était peut-être des sortes de miroirs des autres. C'est le fait de oser prendre ma place, ou plutôt, alors c'est vrai que là, on en parlait notamment avec ma coach, elle me dit, mais finalement, Laure, il n'y a pas tant de place à prendre puisqu'elle est naturelle. C'est, voilà, tu prends la place de personne, tout le monde a sa place. Mais c'est d'oser être moi, en fait, d'être vraie. Finalement, j'ai toujours eu en moi ce côté très authentique à détester les gens qui jouent des faux rôles, qui se mettent des masques, etc. Mais finalement, j'ai poursuivi les mauvais rêves et je voulais devenir quelqu'un d'autre que moi-même. Donc finalement, je voyais chez l'autre ce que je me reprochais à moi-même. Et je crois que ça a été vraiment ça, en fait. C'est d'oser m'affirmer, et je pense que c'est encore en continu, et de plus en plus, en fait, j'ai envie d'aller vers ce côté, non pas dans l'agressivité, évidemment, mais vraiment d'assumer, de m'affirmer, en fait.
Ça me parle beaucoup.
Je pense que ça parle à beaucoup de femmes.
Ouais.
Et des hommes aussi, hein, mais...
C'est quoi tes plus grandes peurs?
Mes plus grandes peurs, alors, j'ai eu longtemps cette peur du vide, et je crois que là, j'y fais face, en fait. Ce côté d'être seule, en fait, face à toi-même, je pense que ça fait peur, en fait. Et finalement, on apprivoise beaucoup de peurs et on se surprend à être beaucoup plus fort qu'on ne le pense. Et notamment, alors, je pense qu'une partie de moi, étrangement, c'est ne pas être dans le moule et être dans le moule. J'avais la peur d'être dans le moule, mais en même temps, quand tu n'es pas complètement dans le moule, c'est aussi un peu flippant parce que tu sens un jugement des autres, et je pense que c'est cette validation des autres que j'essaie de me détacher finalement et presque de m'en foutre et me dire, moi, je veux me valider. Oui, je suis pas dans ce moule du tout. Et c'est très bien. C'est mon moule à moi. Et, de toute façon, je ne suis pas une quiche. J'avais lu cette petite phrase, je trouvais ça
mignon.
Mais c'était, voilà, c'est peut-être ce côté d'être un peu déphasé. C'est peut-être la peur. À la fois, j'ai eu longtemps peur d'assumer, d'être finalement différente. Et aujourd'hui, je pense que j'aurais peur de ne pas oser aller à fond dans cette différence parce qu'elle est, elle est chouette, cette différence, en fait. Et on l'est tous, et c'est, le monde a besoin de ça. Vraiment.
C'est ce qu'on appelle la singularité. C'est de se dire qu'on a tous quelque chose. Et la singularité, j'ai fait un épisode de podcast récemment, d'ailleurs, dessus. Ce qui est hyper intéressant, c'est que avant de découvrir que c'est ta singularité, que ça peut être un formidable atout, notamment, tu vois, l'hypersensibilité dont on parlait, c'est souvent quelque chose que qu'on se reproche à soi-même. Et quand on découvre, en fait, que c'est notre singularité et qu'on peut le transformer en quelque chose de génial, c'est là où
on s'éclate.
On s'éclate. Enfin,
t'es dans ton truc, quoi, en fait.
Tu colles ça avec, tu trouves ta zone de génie, ce qui a du sens pour toi, et tu utilises ta singularité, tes talents, c'est le début de, c'est là où il y a les ailes qui se déploient, c'est trop chouette.
C'est ça. Exactement, ouais.
De quoi t'es la plus fière aujourd'hui?
Je dirais ce projet, en fait, que je crée, enfin, ce qui est plus un projet, cette évolution, et je pense que c'est le reflet de ce que je suis, tout ce travail que j'ai fait sur moi, en fait, vraiment, de penser mes blessures, de les comprendre, les décortiquer, d'avancer, et je crois d'avoir acquéri, je pense, beaucoup plus de sagesse, même si c'est pas encore simple, aussi, de paix intérieure, d'acceptation. Parfois, il y a des choses, je les accepte pas, très clairement. On a tout ce côté un peu contrôle fric aussi. Voilà, je pense que c'est ce travail de lâcher prise que j'arrive à faire, et je dirais plutôt, en fait, bon là, ça part, mais cette résilience que j'ai pu avoir, de transformer en des épreuves, en quelque chose de chouette, de vraiment beau, Et j'espère d'inspirant, en tout cas pour d'autres personnes, parce qu'on est malheureusement trop nombreux à vivre des moments difficiles aussi, et de pouvoir être une source d'inspiration comme moi j'ai pu être inspirée de personnes. Tu dis, il y a eu vraiment que des galères, des choses très compliquées qui ont malgré tout réussi à poursuivre leurs rêves. Et je crois que ouais, cette détermination de, même dans le brouillard, dans le tunnel, de continuer à y croire en fait et de foncer.
C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné?
Alors, j'en ai eu beaucoup, évidemment, mais je crois que le tout premier qui résonne encore, c'est mon boss de l'époque, quand j'étais, le tout premier, qui était génial, vraiment, je l'adorais, Edward Godbert, donc qui est, je le salue, je doute qu'il écoute ce podcast, c'est un anglais, je comprenais pas un mot de ce qu'il disait, il avait un accent du nord de l'Angleterre, c'était infernal, je comprenais rien. Mais je me rappelle, il m'a dit, Laure, rappelle-toi, tu es là, you're here to enjoy. Et il m'a dit vraiment, si tu ne enjoy pas, en fait, si vraiment tu, barre-toi de là. Pars vraiment, c'est hyper important.
Fais-toi plaisir.
Là pour t'amuser. Exactement. Fais-toi plaisir.
Mmh. Ouais. Et le conseil que tu aurais aimé qu'on te donne? Et que tu as aujourd'hui?
Le conseil que j'aimerais qu'on me donne, peut-être un petit peu plus tôt, c'est que, ne cherche pas l'approbation des gens, en fait, de t'autoriser à être toi-même ou à penser ou autre, mais vraiment affirme-toi. Et si les gens ne sont pas d'accord, c'est leur droit. S'ils n'ont pas envie de te, c'est pas grave. En fait, t'en foutre un peu plus, je pense. C'est d'être plus, indépendante sur cette auto-validation qu'on se donne, nous, et pas plus à l'intérieur qu'à l'extérieur, en fait.
C'est quoi tes prochains défis?
Alors, prochain défi, c'est vraiment de déployer mes ailes et de voler de mes propres ailes. Donc, vraiment, il y a encore aussi pas mal de choses à mettre en place pour que mon business m'auto-nourrisse, on va dire, financièrement bien, en fait. Et là, j'ai un gros défi puisque je repars m'installer à Londres. En tout cas, bon, début d'année, j'ai trouvé un appartement. Et du coup, c'est de vivre seul, en fait, donc de repartir à zéro, c'est un gros reset de ma vie, et ça va se jumeler en même temps avec un passage, la quarantaine qui arrive, les 40 ans, je ne me sens pas du tout 40 ans, mais je pense que c'est un sacré défi pour une femme, et de me dire
après,
que...
tu vois, je me permets de te couper, moi j'ai eu les 40 ans là cet été,
ouais.
Je pense que, tu vois, ce que je disais à des amis, c'est que quand t'as fait un burn-out, alors moi j'avais, enfin, si tu veux, une semaine avant mes 40 ans, j'ai divorcé, je me dis quand t'as fait un burn-out, t'as quand même, tu sais quitter, donc finalement,
ouais,
tu permets d'appréhender le truc de façon complètement, ouais, différente.
Avec plus de sérénité.
Okay, ouais. Je sais qui je suis quelqu'un de bien, je vais y arriver.
Non, c'est ça, exactement. Mais je crois que ce défi, c'est vraiment mon émancipation, et ça passe par ma vie de femme, comme dans mon job, en fait, vraiment, c'est de reprendre cette place, finalement, que j'ai en moi, en fait, et voilà, cette émancipation, et surtout de me dire que je n'ai besoin de personne. Évidemment, on a besoin de beaucoup de monde, mais finalement, de pas être dans le besoin ou la dépendance.
Ouais, c'est d'être
encore plus juste
au sein, ouais, c'est une relation. Ouais, tout à fait. Est-ce que tu aurais un conseil de lecture à partager avec nous, à part ton livre, évidemment, parce que ça, on le conseille, évidemment.
Oui, alors évidemment, et je le montre, mais en même temps, on ne le voit pas. mais n'hésitez pas à le demander d'ailleurs à votre libraire, parce que très souvent, il l'a en stock et il le met pas en rayon parce qu'il ne sait pas où le mettre. Donc, je sais pas ce qui se passe dans le... Voilà, il y a un nouveau design aussi de la couverture. Ou alors, vous pouvez le commander en ligne, évidemment.
Et même s'ils l'ont pas en stock,
ils le commandent. Oui, exactement, très facilement. Donc, après avoir lu mon livre, non, je dirais, il y en a plein. Alors, qu'est-ce que je lis en ce moment? Alors, moi, c'est un roman feel good que vous devez connaître, qui a vraiment résonné en moi. C'est Plus jamais sans moi, de Maud Ankawa, qui était vraiment chouette.
J'ai pensé à toi quand tout à l'heure, tu disais apprendre à rester seule avec soi-même.
Ouais. Exactement. J'ai eu envie de faire le chemin de Compostelle après avoir lu.
Ouais, mais je pense qu'on a tous eu envie de le faire. On a tous eu envie de le faire.
J'ai jamais été à l'esprit, mais là, exactement, c'était très, mais vraiment, il est chouette, je le trouve plutôt bien. Après, en termes de lecture, en ce moment, je suis très dans le, tout ce qui est, alors, soit loi d'attraction ou, self-development, en fait. Donc, j'ai lu notamment Lise Bourbeau. Je pense que c'est un bon prérequis à lire. Ça ne donne pas trop d'action à mettre en place, mais ça vous explique vraiment sur vos blessures, à quel point en fait vos comportements, vos réactions face à vous, votre entourage, et vous aide aussi à mieux comprendre l'entourage, sont le reflet de blessures profondes qui sont à soigner. Et ça a été un bouquin assez sympa. Donc, c'est les 5 blessures qui vous empêchent d'être vous-même, de Lise Bourbeau. Et aussi la clé de votre énergie de Natacha Calestrémé, qui est vraiment une bible en fait, donc qui est vraiment chouette. Et qu'est-ce que je pourrais conseiller d'autre? Après, moi j'aime beaucoup, en ce moment je lis des livres de Noël aussi. C'est aussi faire des lectures un peu qui vous, surtout le soir au coucher, qui vous tortillent pas trop l'esprit en fait, et qui vous reconnectent à cet enfant intérieur. Faire des choses, autorisez-vous, moi je sais que j'adore le dessin, bah, des BD, des bandes dessinées, voilà, qu'est-ce qui résonne en vous, mais qui ferait plaisir à votre enfant. De lire quelque chose, voilà, que vous, enfant, et ça peut être un dessin animé aussi, de regarder. Ah,
moi, j'ai emmené ma fille voir Wish, le nouveau Disney.
Ah, je veux trop aller le voir, ouais.
Ah ouais, c'est trop chouette. Ouais. Ce que je me dis sur Insta, c'est, moi, ça
a l'air.
Bah, écoute. On parle de réaliser ses rêves, d'être autonome.
C'est ça.
Pas attendre que quelqu'un réalise tes rêves pour toi, et soit enfin, ouais. Et bon, on a une double lecture, on lit pas aux mêmes blagues quand on est enfant que quand on est adulte. On a
deux versions, exactement. C'est tout public.
Ouais.
C'est l'avantage des films Disney. C'est vrai que j'ai vu là récemment une expo Disney qui était à Londres et qui fait toute la rétrospective, mais il s'adresse à tout public en fait. Et c'est là où c'est très innovant. Et je pense que bah d'ailleurs Walt Disney c'était un grand visionnaire, un grand enfant en fait. Qui a suivi ses rêves et qui a eu beaucoup de galères aussi, un personnage super inspirant. Et je pense qu'en effet, les enfants ont besoin de ça, mais nous aussi, on a besoin de ces beaux messages.
Tu vois, par rapport à ce que tu disais sur les blessures, je pense que c'est une discussion que j'avais avec une des coachs de Pourquoi pas moi. C'est de se dire qu'en fait, c'est pas parce que vous n'avez pas eu un grand trauma dans votre vie que vous n'avez pas de blessures, en fait. C'est vraiment un truc, je pense qu'on n'en parle pas assez. On a tous des blessures, des petits, même des micro-traumatismes, mais qui vont nous bloquer. Bien tu sûr. Vois, moi, suite à mon burn-out, j'ai fait pas mal de séances de MDR, donc qui permettent de désancrer, pour ceux qui connaissent pas, qui permettent de désancrer les traumatismes en soi. Et si tu veux, en fait, il y a eu des phrases qui sont ressorties, des trucs que j'ai entendus enfant, mais il y avait aucune intention de la personne qui disait ça de me blesser. Ça n'avait, enfin, c'était vraiment, c'était sa croyance à lui, et il y avait, mais sauf que moi, ça m'a créé un trauma en moi, et du coup, une pensée limitante, et donc ça me bloquait dans mon, et je suis, à chaque fois, tu dis, mais jamais de la vie, j'aurais imaginé en fait que ce truc-là puisse autant me bloquer dans ma vie, et on se fait dire que, on a tous des blessures. Comme on disait, il y en a qui sont transgénérationnelles, il y en a qui sont issus de notre vie fœtale, il y en a qui sont issus de notre vie
enfant, de notre vie à nous aussi.
Ado, et c'est vraiment important de se dire qu'il y a pas de petites blessures, de grandes blessures. Ce qui compte, c'est d'arriver à justement à les découvrir pour pouvoir aller mieux, parce que après on
à les digérer en fait. Mais vraiment, ouais, plutôt que de stocker, garder ça en soi. Et c'est vrai que pour refaire le parallèle avec le ventre, c'est là où on va dire, par exemple, il y a quelque chose qui nous reste sur le cœur, t'as la boule au ventre, ce genre de choses, en fait, où ça me gonfle.
C'est des expressions, en fait, elles sont...
C'est viscéral, en fait. Et on les garde en nous. Et surtout, en effet, des choses qui peuvent être dites, comme tu le dis, par des personnes de manière pas du tout une mauvaise intention, en fait.
Non, bien sûr.
Adulte, enfant, on n'a pas la même...
Ouais. Une phrase juste toute simple à ton enfant, de dire il faut que tu travailles dur pour réussir. Bah tu ancres le fait dans la tête
exactement.
De ton enfant que
ça bloque.
Ouais, c'est ça. Alors après, il faut, enfin, quand t'es parent, il faut dire que toutes tes phrases peuvent avoir un impact, mais en même temps, faut quand même vivre. Et tu vois, hier soir, j'ai emmené mon fils chez le dentiste. Et bon, sa dentiste est pas quelqu'un de très charmant, mais elle est très très belle. Mmh. Donné, tu dis bon, donc j'ai fait, je me suis fait engueuler et parce que en gros, j'y vais pour un contrôle et je le récupère parce que j'étais pas dans la avec lui dans la salle. Et là, j'arrive et il a la bouche en sang.
Oula,
c'était juste un contrôle, tu vois. Donc, bon, j'ai là en gros, donc moi, ma réaction de maman, même si mon fils il a 12 ans, c'est ça va, mon amour, t'as pas eu mal. Mmh. Et là, elle me dit, ah non, c'est absolument pas ce qu'il faut dire à un enfant.
Bah oui, mais moi aussi la bouche en sang.
Bah si, en fait,
m'inquiète un peu.
Tu sais qu'il va se faire arracher une dent, tu vas pas lui dire tu vas avoir mal. On est d'accord, mais bon. Et du coup, je me suis fait gronder hier. Mais bon, donc en tant que maman, on fait ce qu'on peut avec. Enfin voilà.
Fait ce qu'on peut, c'est ça.
Et je peux avec son cœur et.
Il faut aussi apprendre à excuser même nos parents, même si on a des parents géniaux, ils ont fait vraiment ce qu'ils ont pu avec leurs propres connaissances et leurs propres blessures eux-mêmes. Enfin, c'est voilà. C'est...
Donc c'est fait avec amour en fait.
Exactement.
Bah voilà. Enfin, je pense qu'on a tous nos enfants, de tous les enfants reprochent qu'on des trucs à leurs parents.
Ah oui.
Nous, on a tous à des choses. Enfin, surtout quand tu entreprends un travail sur toi, il y a un moment donné où tu te dis, mes parents, ils ont fait ça, c'était pas bien.
Le procès parental, il est toujours, il arrive.
Mais c'est important en effet de prendre du recul et de se dire, ok, en fait, ils ont fait comme ils ont pu, au mieux avec tout leur cœur. Alors, t'as des parents qui sont plus ou moins.
Oui, bien sûr. Oui.
C'est vrai. Moi, en tout cas, mes parents, que j'ai l'impression que c'est le cas de tes parents, c'est des boules d'amour. Donc, en fait,
Pas parfait. Hein. C'est sûr que c'est boules d'amour. Ça. On fait aussi avec leur propre vie, leurs problèmes. Et c'est, je pense que voilà, aujourd'hui, et je pense qu'il faut déculpabiliser en tant que parent aussi, ouais. Que vous, en fait, pour rendre un enfant heureux, il faut déjà vous être heureux, travailler sur votre propre bonheur. Et l'enfant, je dirais qu'il est assez malléable, en fait. Il s'adaptera à beaucoup de choses. Et tout ce dont il a besoin, c'est d'attention. C'est qu'on le soutienne dans ses rêves, qu'on le laisse rêver aussi. Ça, c'est important, laisser rêver un enfant. Et je trouve que, voilà, c'est, après, il n'y a pas tant de bonnes ou mauvaises phrases, tant que l'intention est bonne. Et je crois que d'ailleurs, dans la communication, c'est que 10% des mots, tout le reste, c'est de l'énergie. Donc, si votre énergie est bonne, j'ai envie de dire.
C'est clair. Ouais, tu vois, c'est quand on s'est séparés et tout le monde m'a dit, ah, faut que tu fasses attention à tes enfants. Et en fait, j'aurais dit non, mais en fait, la priorité, c'est moi, là. C'est que moi, je sois bien parce que si, alors, évidemment, je vais faire attention à mes enfants. Merci.
Oui, je peux pas t'oublier.
Mais en fait, si moi, je vais pas bien, mes enfants, ils iront pas bien, en fait. Donc, là, je me reprends, je me relève d'une des plus grandes claques que je me suis prise dans ma vie. Mais par contre, si moi, je suis pas bien, mes enfants, je vais les entraîner avec moi. Donc en fait, la priorité, désolée, mais en fait, c'est pas l'égoïsme, c'est l'égoïsme positif.
Au contraire, parce que
ça, on ne l'apprend pas en fait.
Oui, on fait culpabiliser et surtout, bon, les femmes beaucoup en fait, mais ouais, avoir
les femmes.
Un côté.
Je pense que personne n'a dit ça à mon ex-mari. Hein.
Non, étrangement, ouais. Non, mais c'est là où il y a encore beaucoup de machisme là-dessus. Mais le sacrifice, en fait, n'est pas bon. Vous pouvez pas vous sacrifier, même pour vos enfants que vous aimez plus que tout. Si à un moment donné, il y a un sacrifice, ça n'ira pas. Et c'est même une trop grosse charge sur les épaules des enfants.
Après. Ouais. Mais le machisme, tu vois, d'ailleurs, et d'ailleurs, j'avais lu un bouquin sur ce sujet-là. C'est que c'est pas du machisme. En fait, le machisme sur cette thématique-là, il vient des femmes. C'est pas les hommes qui vont dire ça. C'est les femmes. Parce qu'en fait,
Surtout les femmes entretiennent ce sexisme, en fait.
C'est ça. C'est en gros, bah voilà, nous, on s'est consacrés à nos enfants, on n'a pas eu spécialement de vie, vous devez faire pareil. Bah non.
C'est ça.
On a le droit d'arrêter de produire.
Évidemment, ouais. Il y a beaucoup de jugements entre femmes aussi, hein, c'est vrai.
Ah bah, j'ai envie de dire, c'est les pires, hein, les femmes entre elles.
Ouais. Non, c'est pas toujours évident. Et surtout, une femme, moi, par exemple, aujourd'hui, j'ai pas encore d'enfants. Peut-être, et je l'espère, avoir des enfants. Mais c'est vrai qu'il y a ce rapport à, t'as toujours un regard, souvent de la femme, en fait, qui, comme si t'avais raté quelque chose. Bah non, toi, t'as fait ça, t'as fait autrement. Moi, j'ai fait des choses que toi, tu n'as pas faites.
Bien sûr.
C'est ni mieux, ni moins bien. En fait, c'est différent. Et c'est vrai qu'accepter qu'on peut être une femme de plein de façons, ce serait déjà aussi un grand pas.
Ouais, c'est sûr. À qui as-tu envie de dire merci et pourquoi avant qu'on s'écoute?
Alors, j'ai très égoïste, j'ai envie de me dire merci à moi.
Mais non, c'est super. Moi, je félicite les personnes qui se disent merci.
Évidemment, j'ai envie de remercier mes parents et aussi mon ex-conjoint Cyprien qui a été super présent, évidemment. Mais là, je vais être égoïste, je vais me remercier moi. Et non, j'ai remercié la petite Laure. Parce qu'elle avait raison. Elle avait vu juste.
Trop chouette. Merci beaucoup, Laure. Alors, les personnes qui ont envie d'en savoir plus pour ne plus avoir leur petit ventre qui les contrarie au quotidien, où est-ce qu'on te trouve? Je mettrai les liens sur le site.
Donc, sur Instagram, donc vous avez mon compte Insta. Donc, c'est dr.laureiverna. Donc, voilà, il faut peut-être l'écrire. Je pense que
c'est... Je le mettrai. De toute façon, je te tague sur Insta. Et je mettrai le lien sur le site.
Tac. Et juste une petite info, là, je suis en train de préparer un tout nouveau programme, en fait, qui, j'espère, devrait sortir au mois de mars, en fait, donc très prochainement, et qui sera vraiment une expérience pour vous aider à, donc, reparamétrer, en fait, aussi bien votre alimentation, mais aussi gérer vos émotions pour être en paix avec votre ventre. Donc, il n'y a pas que le côté digestion, on va parler d'énergie, d'hormones, de fringales, de problèmes de perte de poids, etc. Ça va être des sujets très féminins aussi. Mais voilà, des messieurs qui peuvent être les bienvenus, mais je pense que ce sera quand même très féminin et on va parler beaucoup de cette reconnexion à soi.
Trop chouette. Merci beaucoup, Laure.
Merci à toi. T'es ravie de faire cet enregistrement avec toi.
Trop chouette.
Et si toi aussi, tu as envie de découvrir ta raison d'être, comme mon invité du jour, je serai ravie de t'accompagner avec le bilan de compétences nouvelle génération. Pour en savoir plus, tu as le lien dans les notes de l'épisode. Tu aimes le podcast Pourquoi pas moi ? Abonne-toi sur ta plateforme d'écoute préférée et mets 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts. Pour moi, c'est énorme. Et pour continuer à suivre les aventures de mon invité et plus de conseils pour écouter ta petite voix, inscris-toi à la newsletter et suis Pourquoi pas moi sur Instagram. Une fois encore, je te mets tous les liens dans les notes de l'épisode. Et évidemment, n'oublie pas d'en parler autour de toi et surtout de ne jamais oublier de te dire « Pourquoi pas moi ?»